Les amis, c'est rare que je joue ça dans ma carrière, mais hier, tout le Québec vibrait ensemble quand on a tous appris en même temps, toute la gang, que la petite Claire Bell avait été retrouvée en Ontario sur le bord de la route. C'est des beaux moments. On dirait qu'on l'a tous pris un peu personnel. Ceux qui ont des enfants, c'est assez facile. On fait le lien avec nos propres enfants, puis on se dit si ma petite fille ou mon petit gars de 3 ans serait perdu tout seul dans le bois, je paniquerais. On était tous persuadés pour la plupart qu'on recherchait un mort plutôt qu'un enfant qui se promenait dans les champs et dans le bois.
On commençait à trouver ça long, là.
Les policiers, moi, ce qu'on me disait, puis je sais pas si je l'avais dit en onde ou hors d'onde, mais ce qu'on me disait, c'est qu'on recherchait pas plus un corps. Tu sais, les plongeurs de la Sûreté du Québec avec qui j'ai eu la chance de plonger il y a de ça quelques années étaient dans le fond de l'eau, en train d'essayer de chercher, voir si on trouvait pas le corps de la petite. Il y a des drones qui surveillaient certains endroits pour qui auraient peut-être pu être des endroits où on aurait pu cacher le corps d'un enfant de 3 ans. Des policiers qui allaient dans des logements et des maisons pour fouiller l'entièreté de ces logements et ces maisons-là pour savoir si la petite Claire était là. Puis finalement, elle n'était pas là. Elle était à plusieurs kilomètres au loin. C'était quoi? C'était un genre de 100-150 kilomètres à peu près de son départ initial quand elle est partie de son domicile avec sa mère. Quelle histoire! Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est que tout le monde était heureux hier.
Il y a des meetings qui se sont arrêtés dans certaines business parce que la nouvelle est sortie. Des meetings importants pour festoyer la découverte de la petite.
Puis on était tous tristes. On pensait aux petites Carpentiers, on pensait à Cédrica Provencher.
Après trois
des
jours,
enfants
là
qui sont disparus puis qu'on connaît pas trop. On sait pas trop ce qui se passe pendant le temps qu'on les recherche. Puis on a tellement de questions. On va vous faire entendre tantôt l'entrevue avec Roger Ferland qu'ils ont fait ce matin. Roger Ferland, c'est un bon ami de la station, quelqu'un d'hyper sympathique, mais c'est surtout une solide expérience dans la police. C'est un enquêteur hors pair. C'est un homme retraité aujourd'hui, mais qui est toujours passionné des médias puis de la scène policière. Fait qu'il vient faire son tour pour nous parler un peu de tout et de rien qui touche la scène policière. Puis là, il va nous parler de l'histoire de la petite Claire Bell. Fait qu'on va vous faire entendre des extraits tantôt, mais je me souviens, moi, d'un moment. Peut-être que les auditeurs plus vieux ont une meilleure mémoire, parce que dans mon cas, j'étais enfant, j'étais bébé. Puis peut-être que si t'es habile avec Google, tu pourrais le retrouver. Mais je me souviens d'une histoire dans les années 80 où un jeune garçon, je pense que ça se passait en Italie, Pascal, un jeune garçon était tombé dans un trou, puis on était incapable d'aller le chercher. Et pendant des heures et des heures et des heures, on essayait par tous les moyens de sortir cet enfant-là, puis on n'était pas capable. Si je ne me trompe pas, ça a duré comme une journée ou deux, mais le monde entier regardait ça. Les journalistes étaient là.
Le jeune Alfredo Rampi qui était tombé dans un puits, ça se peut-tu?
Ça se peut, ça se peut. C'est en quelle année, ça?
81,
donc, c'est ça. Et moi, je me souviens de ça.
Alfredi, non.
J'étais très jeune, mais tout le monde voulait savoir ce qui se passait avec ce petit garçon-là. Puis c'est comme si la Terre avait arrêté de tourner. C'est mon plus loin souvenir, puis il avait réussi à le sortir.
C'est trois jours quand même auxquels, honnêtement, si tu m'avais demandé le pourcentage de chances que j'ai l'impression qu'on retrouve la petite Claire Bell en vie, il n'était pas très élevé, là. Avec le magasinage des urnes qu'on avait trouvé sur le web par rapport à la mère, avec le fait qu'on n'est pas capable de donner de l'information claire du côté de l'enquête, qu'on voit les vidéos absolument désorganisées mentalement et violentes sur TikTok de la mère. Moi, je me demande, puis je le demande parce que la fin est belle. On a la petite Claire, on va être capable d'en prendre soin. Tout le monde a changé son fusil d'épaule quand l'a retrouvé, c'était pas « on veut savoir ce qui se passe tout de suite, on veut savoir si elle est bien, on veut lui donner des soins ». Mais toi, Yannick, puis les auditeurs au 88-971-1021, à quel pourcentage vous pensiez la retrouver vivante?
Ah, moi, c'était zéro. J'étais persuadé qu'elle était décédée et ou qu'elle avait été confiée à une personne qui était chargée de la garder pour que cette personne-là puisse, à long terme, peut-être essayer de la faire passer pour un autre, pour son propre enfant. Mais j'étais persuadé qu'elle était décédée. Honnêtement, j'étais persuadé qu'elle était décédée.
20% de chance qu'elle puisse soit retrouvée vivante.
Les mots qui ont sorti de sa bouche quand elle a jasé avec les policiers, c'est « maman m'a dit d'attendre ».
C'est crève-cœur, honnêtement, là. Je trouve ça tellement... Ouf, moi, ça m'a pris.
Puis je sais pas si tu as pris le temps de regarder tous les trucs que je t'ai envoyé concernant l'affaire, mais je t'ai envoyé une... Je pense que c'est TVA qui a fait l'article, là. Mais on survole avec un drone l'endroit où elle a été retrouvée. Puis c'est à la hauteur de St. Albert, en Ontario, et c'est sur la 417. Et si vous survolez à vol d'oiseau, là, ce que vous voyez, c'est une route passante. Donc, c'est une autoroute, c'est la 417. vous voyez une rivière, vous voyez des champs à perte de vue, puis à certains endroits, il y a comme des arbres, là, une série d'arbres. Fait qu'elle était dans un milieu extrêmement hostile, mm-hmm. mais en même temps un milieu où elle aurait pu se faire voir plusieurs fois par des individus qui passaient par là, ouais. de voir que c'est un drone, c'est pas un être humain là, qui passait sa 4-17 puis il a dit voyons, t'es un bébé de 3 ans, tout seul, qui marche, qui est sale.
Tout croche.
Je vais intervenir. Non, c'est pas ça. C'est un drone. Il y avait plus de 200 policiers qui travaillaient sur l'affaire. Pascal, il y avait 120 policiers qui étaient affectés à la collecte des images, mm-hmm. des images vidéo et à l'analyse. Il y avait aussi des profilers de la Sûreté du Québec ainsi que des gars de l'OPP qui travaillaient sur le dossier, mais 120 personnes qui étaient affectées à regarder ce qu'il y avait sur les images. Puis à un moment donné, ce qu'on nous a raconté, c'est qu'il y a un gars qui est tombé sur un petit point qui semblait se promener sur des images de drone, puis il a dit « Mais voyons, c'est pas ce que je pense. Mais non, ça peut pas être ça, là. Mais non, c'est pas un enfant qui... Oui, c'est elle.
Ouais, les frissons de ce moment-là, on n'aura jamais les caméras, on n'aura jamais les images. » Mais imagine être celui qui... Hey, les gars, les filles, attendez, on a quelque chose ici. Puis qui se rendent compte que oui, ça ressemble à un enfant de 3 ans qui se promène. Faire du pouce sur 2-3 choses que tu as dites là-dedans. Quand je lisais un moment où on mentionnait que la mère est repassée aussi, où elle a abandonné son enfant et automatiquement dans un fossé, là, qu'elle aurait laissé Claire belle, puis qu'elle a repassé pour voir si on la voyait quand on passait en voiture. Là. Ça, là... Ça, je ne sais pas comment, en tant que parent, un, tu peux la laisser là et quitter,
ouais.
mais être capable de revenir sur ton chemin pour vérifier qu'on ne la voit pas dans le fossé puis de repartir.
Mmh. Comment elle a fait pour survivre? Moi, j'ai des enfants de 8 ans, puis j'ai un enfant de 8 ans, puis des fois, il me dit « Papa, tu peux pas me laisser seul 30 minutes, tu sais, je vais faire des conneries. »
Il surveille, ouais, mettons, c'est... il
oui,
serait...
T'as raison, je peux pas te laisser seul pendant 30
entouré
minutes.
Entouré de nourriture, de breuvage, de si dans la maison, il sera en sécurité.
Papa!
Qui pourrait pas s'en sortir, tu penses?
Tu sais, c'est... Quand t'entends papa ou quand t'entends maman la première fois de ta vie, là, de la part de ton enfant, c'est le plus beau mot du monde. Mm. Mais je vais t'avouer que des fois, d'entendre... Papa!
Papa! Ouais, avec cette intonation-là.
Je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il s'est chicané avec son frère. Mais une petite de 3 ans qui a survécu pendant tous ces jours-là, Pascal, de longues heures, jour, soir, nuit, il n'y a personne qui l'a vu. Il n'y a personne qui a vu cette petite-là. Pense-y 30 secondes. Assis-toi quelque part dans un parc, là, puis attends tout seul 15 minutes. Ton premier réflexe, ça va être de te lever puis sacrer ton camp.
C'est long, là.
Donc, il y en a, tu sais, je regardais Gilles Chamberlain, le psychiatre Gilles Chamberlain hier qui était à la télévision puis qui mentionnait que, tu sais, il y avait une thèse comme quoi elle aurait peut-être été aidée. Mais si elle a été aidée, ça veut dire que quelqu'un l'a abandonnée, là. Avec les images qu'on a vues hier, en passant, j'ai changé mon image sur Facebook, là. Je la trouvais un peu hardcore, là. On voyait la petite dans sa piste. Fait que j'ai repris plus la photo où on la voyait de loin dans le véhicule de police. Je trouve que c'est une plus belle photo. Mais... s'il y a quelqu'un qui l'a aidé, c'est quelqu'un de plus qui l'a abandonné une deuxième fois. Là.
Est-ce que c'est le stress de se dire est recherché partout dans quoi? T'sais, mettons la personne qui l'aurait aidé. On brainstorm. La mère, elle la laisse peut-être un adulte, mais de ce qu'on sait, c'est qu'elle l'aurait laissé dans le fossé initialement. Peu importe. Est-ce que la personne pense que le parent a vraiment besoin d'une petite? Puis là, il se rend compte qu'elle est recherchée partout. Puis là, ça vient aux oreilles de la personne qui s'en occupe. Puis là, la panique pogne de dire « Est-ce que je peux être accusée de complicité là-dedans en n'ayant jamais pensé que finalement, c'est un abandon d'enfant de parent? » Y a-tu eu un genre de... S'il y a eu un adulte qui s'en est occupé aussi, de panique, puis ça explique pas que tu te laisses un enfant. Non. Tu vas vivre avec le judiciaire, puis tu vas dire « Hey, moi, jamais on me dit... » que c'est un enfant qui était abandonné. Je pensais aider une maman qui était en détresse puis s'occuper de la petite, puis je voyais qu'elle revenait pas un moment. Peu importe, mais c'est-tu l'instant de panique? Tout le monde réagit différemment quand il est paniqué ou quand il voit que quelque chose arrive, mais j'avoue, jamais j'aurais laissé la petite comme ça.
Fait que la thèse la plus plausible et la moins plausible en même temps, c'est que la mère l'aurait apporté là, abandonnée dans un fossé, puis repartie jusqu'à temps qu'elle rentre au Québec dans un magasin de fourniture de feux d'artifice, nu-pied, tout sale, en disant « j'ai perdu les traces de mon enfant ». Ça, c'est la thèse la plus plausible. Puis il y a Gilles Chamberlain, le psychiatre, qui était à la télé hier, qui mentionnait que Il y avait une thèse aussi comme quoi elle aurait peut-être pu être aidée puis abandonnée une deuxième fois.
C'est la dite fermière que la mère a mentionnée dans son interrogatoire qui portait un tablier écrit Abondance, qui peut avoir aidé. Peu importe, on va avoir des nouvelles. Je ne sais pas jusqu'à quel point on aura toute l'information de cette situation-là, puisqu'il y a quand même un enfant qui est impliqué.
Oui, puis Chamberlain, il y a une expertise pas pire. Là. C'est le médecin chef à Pinel. Puis il mentionnait que la psychose n'explique pas les troubles de mémoire. Là. Tu sais, la psychose, tu vas savoir ce que t'as fait, là. T'oublieras pas tout, comme la mère aurait prétendu au départ. Puis visiblement, les policiers ont fait une maudite bonne job parce qu'ils ont continué à la questionner, puis ils ont réussi à trouver l'enfant finalement. Est-ce que c'est un hasard? T'sais, moi, je veux plus penser que c'est toute l'aide qui a été apportée, les bénévoles, les policiers de la Sûreté du Québec qui sont très, très fiers de leur travail puis ont raison de le faire, puis les policiers de l'OPP aussi qui ont tombé sur la petite. Tout le monde a travaillé extrêmement fort, mais hier, c'était beau à voir toute cette solidarité québécoise-là à l'égard de cette petite enfant-là de 3 ans. Puis j'espère juste qu'elle va être remise dans de bonnes mains.
Oui, ben oui, c'est sûr. Là, je veux dire, la DPJ, c'est déjà commencé. On a entendu le père faire un court témoignage qui est juste « Elle est retrouvée. Merci de nous laisser en paix vivre toute cette affaire-là. Là. » Fait qu'il a fait qu'un seul commentaire très, très court. Le père, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe avec le père. Puis, mais tu sais, on est pas... Je pense que c'est même plus une histoire de curiosité malsaine. Je pense vraiment que c'est une curiosité collective en ce moment parce qu'on veut comprendre où est-ce qu'on l'a échappé, pourquoi ça a mené à ça. On est attaché à la petite. On a vu des images hier. « Es-tu belle? » Es-tu, tu sais, petit cœur. Puis tu te poses la question... As-tu réussi toute seule aussi? Si, mettons, c'est le scénario quand elle s'en est sortie toute seule, la petite à 3 ans, à attendre, parce qu'elle est quand même très sale, tu vois qu'effectivement, elle a peut-être uriné sur elle-même, ses besoins sont peut-être passés sur elle, tu sais. Puis il y a plein d'experts maintenant qui sont consultés, qui parlent de l'hydratation. 3 jours sans s'hydrater, tes reins peuvent arrêter de fonctionner, t'as des coups de chaleur, tu peux être étourdi, tu peux être confus. Donc, elle a-tu par elle-même été s'abreuver dans le petit cours d'eau qu'on a vu, mettons, avec les recherches de drones puis l'étendue des photos qui a été prise?
C'était pas un petit cours d'eau, c'était une rivière. C'est pour ça que, tu sais, quand j'ai vu le topo là, du drone, parce qu'il nous montre l'image de drone exactement à l'endroit où elle a été retrouvée, j'ai été voir sur la carte, juste à côté de St. Albert, il y a une grosse rivière qui passe là. Fait qu'elle a-tu le réflexe d'aller sur le bord de la rivière puis boire un peu d'eau comme ça? Je sais pas. On saura peut-être toutes ces informations-là plus tard, mais tu sais, des fois, je suis très philosophe là, quand je suis seul dans ma vraie vie, puis je regardais, tu sais, résilience, courage. Elle n'abandonne pas, puis elle a continué, puis elle a réussi à vivre. À 3 ans, elle a réussi à vivre 3-4 jours dans un endroit qui est extrêmement hostile. Mais je me pose juste les questions, puis je reviens avec ça. C'est une boucle qui tourne dans ma tête. Il n'y a personne qui a vu un petit bébé de 3 ans se promener le long de l'autoroute. Personne. Il n'y a personne qui a arrêté. Est-ce qu'on est rendu au point individualiste collectivement qu'on se dit ben, « c'est sûrement l'enfant de quelqu'un, fait que je vais me libérer de ma conscience puis je vais continuer pour aller chercher mon café chez Tim Hortons? »
Moi, je suis pas capable puis je préfère passer pour pédophile. Là, puis ça m'est arrivé récemment là, près d'une école. Il y avait un pauvre...
Tu étais avec un paletot,
puis j'ai arrêté chapeau. Puis j'ai dit « j'ai de la crème glacée ». Non, mais tu sais, je fais des farces, mais je suis une femme. Je pense que ça aide. Je pense que ça aide à pas trop faire peur puis à pas trop être accusé. Vous avez le préjugé défavorable là-dedans pour les hommes, mais j'ai aussi un look, je pense, pas très menaçant, là, honnêtement. Mais moi, j'ai parlé à un enfant qui était tout seul à un moment donné, puis je voyais qu'il était comme « Es-tu correct? Elle va-tu? Es-tu une méchante femme? » Je voyais dans ses yeux, c'était pas sûr. Puis j'ai vu le parent tourner le coin. Probablement qu'il est parti avant le parent, puis le parent s'en venait, mais j'ai posé la question « Hey, t'es-tu tout seul? T'es-tu correct? T'es-tu perdu? Ton parent, es-tu proche? » Ça me sidère de pas s'arrêter pour ça. Ça me sidère de pas s'arrêter pour une personne âgée confuse. Tu vois qu'elle tourne un peu, qu'elle n'est pas sûre de son chemin. Au pire, tu auras pris la chance. Qu'est-ce qui est le pire? Que tu as aidé quelqu'un? Que tu as eu l'air de pédophile? Puis tout s'explique, je veux dire, si tu fais rien. Mais dans le temps, on était tellement enclin à s'aider, à regarder si chez notre voisin c'est correct. Il y a du monde qui se font voler. Puis la maison d'en face voit ça, puis c'est bien bizarre ce qui se passe. Puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'appel à la police, il n'y a pas de vérification. Puis tu vois très bien que Réjean, il n'est pas en train de sortir sa maison au complet.
On vit dans un drôle de monde, ma belle Pascal. Bon, on va en parler avec Denis, puis vers 12h30, on va vous faire entendre ce que Roger Ferland, l'ex-enquêteur de la police de Québec, avait à dire à ce sujet-là. Puis on m'a posé la question hier. en blague, Marceau, si ton enfant, ton plus jeune, disparaissait, qu'est-ce que tu ferais pour le retrouver? J'ai dit, moi, ce serait assez simple pour mon gars de 8 ans. Je sors le Xbox sur la galerie.
Puis il revient. C'est niaiseux.
D'après moi, il va le sentir de loin, puis il va vouloir jouer à Fortnite.
C'est-tu la dernière chose, Yannick, par contre?
Quoi?
Vu que c'est un succès, puis ça a fonctionné, puis on a retrouvé la petite, là.
Ouais.
J'espère qu'on va pas se poser les vraies questions pareilles, soit... Comment est-ce qu'on avertit la collectivité malgré tout quand ça arrive? Je veux pas qu'on arrête à réfléchir à un genre d'alerte quelconque, rapide sur les cellulaires, si ce n'est pas l'alerte Amber.
Parfaitement d'accord avec toi. Je vais vous faire entendre ça. Je l'ai fait entendre tantôt, mais je le fais entendre encore. Tous ceux qui ont des mauvais commentaires à l'égard des policiers. Parfois, il y a des commentaires qui sont légitimes, même si c'est des commentaires qui sont négatifs. Mais hier, d'entendre ça, là, pour tous les corps de police, tous les policiers qui travaillent extrêmement fort chaque jour pour essayer de vivre dans un endroit qui est un peu plus sécuritaire, puis c'est eux qui en sont responsables, d'entendre le chef de police dire ça, c'est juste incroyable.
Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que c'est dans des moments comme ça que c'est pour ça qu'on est policier. C'est pour des moments comme aujourd'hui qui sont extrêmement grisants quand on réussit à avoir un dénouement de ce type-là. À la fin d'une journée, je pense que ceux qui l'ont vu ont vu nos policiers, ont vu les gens qui étaient sur le terrain, les gens de l'OPP. On est extrêmement heureux du dénouement d'aujourd'hui.
C'est le fun d'entendre. Lâchez pas, merci d'être là, gang. Hey, quelques faits divers, juste avant de passer au pit stop, là, des faits divers qu'on doit mentionner.
Ben, c'est pas nécessairement des faits divers, mis à part cette arrestation-là, parce que ça s'est passé effectivement dans le pit stop, mais pour Limoilou, excuse-moi, là, mon ordi, il bug, je l'ai, ok. Bon, un petit... Internet, on aimerait ça que ça soit plus vite. Bon, pour Limoilou, arrestation et perquisition en matière de stupéfiants et d'armes à feu. Dans Saint-Émile aussi, ça vient de se passer. Donc, hier, 16h30, et on a le communiqué dans les dernières minutes. C'est en collaboration avec le groupe tactique d'intervention. Arrestation d'un homme de 30 ans, assez jeune, pour des infractions relatives aux armes et au trafic de stupéfiants. Il est détenu. Il va comparaître au palais de justice de Québec. Qu'est-ce qu'il y avait, lui, dans cette perquisition-là, du côté d'une résidence de Saint-Émile, puis l'autre dans Limoilou? Un revolver de calibre 357 et des munitions, un fusil de calibre 12, des munitions aussi, trois armes qui s'apparentent à des armes véritables, un poing américain, 4 kg de cocaïne et 2200 devises canadiennes et une souris verte. Alors, une autre frappe importante. Hier, on se jasait de diverses frappes qui ont eu lieu. C'était un petit peu des opérations surprises au Québec pour mettre la main sur des individus qui auraient fait de la violence armée sur la côte nord. C'était une vague d'arrestations partout dans la province. Et ça a été fait, bon, même à l'entrée-sortie du parc des Laurentides, je veux dire, tout était bloqué. Tu ne pouvais pas accéder sans te faire intercepter par des policiers de la Sûreté du Québec. Et c'est pas moins de 12 mandats d'arrestation pour mettre la main au collet d'hommes âgés entre 17 et 32 ans.
Oh.
Yannick.
Merci beaucoup. Jeff Fortin va être dans le show tantôt. Il couvrait la conférence de presse du maire Marchand. Sam Hamad va venir faire son tour aussi ce midi. On va avoir plein de choses à jaser avec lui. Denis va être là pour le pit stop. Et mes chums, Mathieu Thomassin et Martin Bourget seront là, respectivement, pour leur chronique automobile et chasse et pêche. On vient.
Marceau, le midi.
Oui,
voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Presque midi, pile poil, dans 15 secondes, Denis Gravel qui vient d'arriver en studio. Il ressemble curieusement à Jeffrey Dahmer.
Ah! Oh. Faudrait faire un sondage plus à Marc-André Grondin quand il a sa calotte, à Ricardo Troggi. Dahmer, je comprends pas, je trouve ça raide.
Il y en a qui me comparent à Heisenberg dans la série Breaking Bad. Ben on m'a demandé si j'avais parti une shop de cristal meth à la maison.
It's time to go.
Mais honnêtement, ce sont de belles lunettes. T'as osé un look. Ouais. Qui t'a conseillé?
C'est ma blonde qui a choisi les montures. Puis, quand elle les a mis sur ma tête, je me suis dit, bon, ben celle-là, c'est sûr qu'elle les prend pas. Et on a essayé deux, trois autres affaires, okay. Puis elle a dit, ben c'est première. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'es sérieuse? Tu veux vraiment que j'aille de l'air d'un tueur en série?
Mais non.
Puis là, elle m'a expliqué les affaires de grosseur de face, puis de carrure, de menton. Je comprends, fuck all. Okay. J'ai dit, sais-tu quoi? Cette face-là, là, t'avoues plus que moi. Puis si tu trouves ça à ton goût, t'as le dernier mot.
Je l'avais dit que c'était un gars galant.
Ben ça, c'est pas galant, mais je trouve ça cute.
Mais je m'habitue, puis je pense qu'elle avait raison au total.
T'as dit
tout,
les montures, donc t'as choisi plusieurs styles. Tu vas arriver ici.
Ah non, j'ai juste j'ai des solaires qui sont ajustés aussi. C'est un genre de deux pour un. Là,
t'as pas pris des verres progressifs, là?
Comment ça?
Sauf que quand tu vas dehors, ça devient des lunettes de soleil. Puis quand tu rentres, non. Un moment donné, il faut t'attendre une heure avant qu'il
revienne. Ah non, je vais
changer. Tu seras pas Stevie Wonder
ici. Mais c'est vraiment du nouveau au point où tantôt, j'étais au resto, puis là, il mouillait beaucoup. Puis juste avant de sortir, j'étais comme en panique. J'étais avec Véro. Je dis, Véro, qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont des lunettes quand il pleut, là?
Mais t'aimes-tu ça? Parce que j'en ai, puis j'aime tellement pas... Sur le nez, ça m'énerve. J'ai l'impression d'être prise dedans. Tout a l'air de t'habituer rapidement.
Hey, on m'avait vendu ça comme un calvaire. T'as jamais eu de lunettes? J'ai dit non, j'ai jamais eu de lunettes. Puis tu t'embarques tout de suite avec des progressives que tu vas avoir tout le temps. Ben c'est parce que je me connais. Si je prends des lunettes de lecture, après 2 semaines, elles sont brisées. Je me suis assis dessus, je les ai perdues.
Ouais.
La seule façon pour moi de les garder, c'est de les avoir d'en face tout le temps.
Fait que là, c'est une nouvelle étape parce que tu vieillis.
Oui, exactement.
T'as-tu un deuil à faire de ta face?
Et ça, c'est une bonne question, parce que j'ai jasé avec ma blonde là-dessus, qui est plus jeune, puis je disais, j'arrive à un âge où, oui, tu commences à voir certaines choses où ton pic est derrière. Puis moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale de hockey, fait que ce pic-là, il a pas été à 28 ans, tu comprends? C'est la première fois où je constate que j'avais quelque chose d'impeccable. Ma vision, j'étais fier de ça. Je voyais proche, je voyais de loin, je voyais dans le noir comme un chat, j'avais une vision top-notch, là. Et je riais de mes parents quand, passé 45 ans, ils ont eu besoin de lunettes, t'sais. Puis ils se sont ostinés longtemps. Tu sais, quand tu prends une pause bonhomme avec ton cellulaire... Là,
ouais. Toi, tu le faisais, t'étais rendu là.
Oui, j'étais rendu là, puis c'est quand j'ai commencé à faire lire des petits caractères à ma blonde, parce que j'étais incapable de lire, que j'ai fait « OK, c'est assez
».
C'est assez faux.
Ça te lâchait-tu des fois, mettons, en fin de journée? T'étais sur ton écran, par exemple, il est rendu 22h, t'as ta journée dans le corps, tu fais beaucoup d'écran, tu lis plein de trucs aussi pour l'actualité.
Ouais.
Puis là, tu commences à te rendre compte que faut que tu vois pas.
Bien, au niveau de tout ce qui est pas full lumière, j'avais beaucoup de misère. Ça, c'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Puis passé une certaine grosseur de caractère, j'étais rendu incapable de déchiffrer le
pisseau. Regarde, tu t'en viens là, par exemple.
Mais quand tu dis full lumière, je comprends pas. Parce que t'es le gars qui travaille le plus dans la noirceur, t'es le prince des ténèbres de la radio.
Je l'ai été longtemps, mais là, j'ai besoin de plus. Si on n'avait pas les fenêtres ici, j'allumerais les lumières, probablement.
Même avec les fenêtres, tu les allumes souvent. Là.
Parce que dans ton ancienne vie radio, là, moi, j'arrivais de travailler, là, il faisait super beau, super soleil, puis là, je rentrais dans Baptiste, j'étais à tabarouette, perte de luminosité, puis quand j'arrivais dans le studio après toi... Je voyais rien.
Le studio qu'on avait à la base était hyper sombre, puis nous autres, on fermait toutes les lumières. Puis quand il y avait de la lumière qui rentrait par les fenêtres de l'autre côté du corridor, on baissait les toiles. Fait que non.
Vous pouviez bien être de mauvaise humeur.
Oui, oui, je pense que ça aidait pas. Ah, ben, franchement, là, oui, t'as juste à pour changer les ampoules.
Là, la prochaine étape, Denis, je vais te la raconter.
Okay? Je suis pas sûr, j'ai le goût, par exemple.
C'est avec tes enfants, parce que là, ça va être un souvenir que tu vas ancrer directement dans le cerveau de tes enfants. Quand ils vont faire de quoi de croche, faut que tes lunettes soient sur le bout de ton nez, puis il faut que tu les regardes, mais
à travers le haut.
Ouais, en haut de tes lunettes.
Plus haut que les lunettes, OK.
Comme ça!
Avec la tête qui descend tranquillement.
Exactement. C'est bon, j'ai déjà la
Twitch. Il était assez pratiqué. Mais toi, Yann, tu t'en viens là?
J'ai de l'air d'un propriétaire de condo en face de l'Académie Saint-Louis. Hein.
Ah.
Sont encore là, les petits tabarnaks. En train de vivre.
Mais tu commences à regarder ton cell d'une autre manière. Tu t'approches beaucoup de l'écran. Tu peux t'obstiner. Okay. Ça me fait plaisir de dire que tu fais pas ça si ça te fait vraiment plaisir d'entendre que c'est ça que tu fais.
Pourquoi l'alerte Amber n'a pas été déclenchée? Je peux voir. J'ai une vue à 100%. Là. Je sais pas pourquoi tu dis ça.
Ouais, mais c'est écrit gros dans sur tes feuilles, là, avec respect. Là.
Regarde, vas-y, prends ça. Là.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a?
Mais les de ton bord, là.
Ouais. Mais ça, c'est de loin, ça. Eh mon Dieu, t'es-tu
Quand tu commences à montrer tes dents en regardant...
La face que tu me fais là est pas rassurante, là.
Je vois tout. Okay. Tout est parfait.
Ah oui?
Okay. Impeccable.
Tu nous le lirais dans
Parce que la presbytie, qui souvent te pogne à la mi-quarantaine, c'est vraiment lire de près là, les choses qui sont des plus petits caractères. Ah, moi, c'est ça que j'ai. Je ne regarde plus derrière. Maintenant, je suis un bonhomme.
Mais moi, j'ai compris, j'en parle plus.
Mon plus jeune m'a tellement fait sourire parce que mon grand, les changements, il est comme son papa, il aime pas ça ben. Fait que je dis, pis ton papa, il est-tu beau avec des lunettes? Il dit, je suis pas sûr que je vais m'habituer. Et le plus petit est arrivé, il dit, ah, t'as donc bien de l'air beau et studieux.
Oh, je suis parti à rire. Mais de l'air.
Ouais, de l'air, juste de l'air.
Ouais. Mais
l'air
au moins, studieux. Il est déjà dit, t'as de l'air beau et studieux.
Oui,
c'est gentil.
C'est du beau vocabulaire en passant.
Moi, celui qui me ressemble le plus me dit que je suis très laid. Assez souvent.
Ben, vous vous ressemblez donc dans la personnalité aussi.
Mais c'est parce qu'on a la même face.
C'est ça qui arrive. Hein?
Habitue-toi.
Je suis ton père.
Tu vas ressembler à ce dégât-là, mais t'as 40 ans. Hey, on a tous vécu un beau moment hier quand on a appris que Claire Bell était toujours en vie. Incroyable.
On jasait de Anne Guérette quand la nouvelle est tombée. Puis je me disais, on l'a-tu dit trop vite? Parce que ça se peut pas. T'sais? Et on cherchait les scénarios. T'sais? On savait qu'on recherchait une fermière à un moment donné ou quelqu'un qui l'avait peut-être hébergé, peut-être logé. Fait que moi, tout de suite, je suis allé là. T'sais? Bon, elle était chez quelqu'un qui en a pris soin pendant une couple de jours puis qui attendait peut-être un signal, peut-être un membre de la famille, peut-être X, Y, Z. Je m'étais bâti plein de scénarios dans ma tête. Il y a un scénario dans ma tête qui n'existait pas. C'est pas vrai que cette petite fille-là est restée 3 jours dans le fossé. Et pourtant... Cette petite fille-là est restée 3 jours dans le fossé et a survécu.
C'est la thèse la plus plausible. J'entendais d'autres thèses. Docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre, qui est le médecin-chef à l'Institut Pinel à Montréal, qui mentionnait qu'elle aurait peut-être pu être aidée par quelqu'un qui l'aurait une nouvelle fois abandonnée. Ça, cette thèse-là est plausible, mais est-ce que toi, là, mettons que tu veux aider une mère qui dit « Hey, moi, là, mon chum me bat, là, garde ma fille, puis tu sais, coûte que coûte, tu la gardes chez vous. » Est-ce qu'après ça, tu libères cet enfant-là pour ne pas être dans la merde? Est-ce que tu la libères dans un champ, quelque part dans un fossé?
On a vu l'état de la mère sur des vidéos. C'est pas une personne à qui j'aurais fait confiance de quelque façon que ce soit. La seconde qu'elle aurait déguerpi, j'aurais appelé les policiers.
Ouais, hein?
Ah oui, absolument.
Mais la plupart des gens auraient fait ça, t'sais. Mais les images de la petite sont à... T'sais, moi, cette image-là où on la voit de très près, puis ça a été repris par Québécois, ça a été repris par Radio-Canada, mais tu vois clairement qu'elle est dans la voiture de police, elle a un œil qui est très vif, l'autre œil qui est amoché. Visiblement, elle est sale. Là. Elle a passé quelques jours dans la nature. Mais 3 ans, Denis, passé toutes ces heures-là tout seul, jour, soir, nuit.
Avec la consigne que ma mère m'a dit d'attendre là. Donc, elle aurait pratiquement pas bougé du fossé pendant tous ces jours-là. C'est un miracle.
Tes enfants, quand tu leur dis de t'attendre là, est-ce qu'ils t'écoutent?
J'ose croire que oui, pas tout le temps.
Non, à 3 ans.
Je t'avais dit là,
ouais, c'est ça.
Pas là-bas.
À 3 ans, moi, c'est encore pire. Parce que tantôt, j'en parlais avec Pascal. Toi, tu me disais elle est restée dans le fossé. C'est une thèse tout aussi plausible. Mais je me dis, tu sais, on a fait le fameux vol d'oiseau là, avec un drone là, à l'endroit exact où elle aurait été retrouvée. À cet endroit-là, c'est des champs à perte de vue.
Ouais.
Quelques petites forêts ici et là. Puis il y a un gros cours d'eau à St. Albert là, qui passe. Comment elle a fait pour boire? Elle a certainement bu de l'eau. Est-ce qu'elle a trouvé un ruisseau ou elle est allée directement à la rivière, qui est une très grosse rivière? 3 ans. Il n'y a personne qui était sur la 417, qui regardait à gauche puis à droite, puis qui a vu ce petit bout de brin de bébé-là de 3 ans se promener. On dirait que tout ça est dur à croire.
Oui. Oui, puis c'est pour ça que j'ai utilisé le mot miracle à plusieurs reprises sans m'en rendre compte hier. Je crois pas au miracle, mais ça, bordel, c'en est un. Puis oui, il nous manque des parties de l'histoire. Mais même quand on va réussir à mettre tout ça bout à bout, on parle d'une petite fille qui a survécu à la négligence criminelle de sa mère. Quel que soit le moyen, quelle que soit la façon, quand on voit des parents dans un état comme celui-là, 99% des cas, ça finit mal. On cherchait d'un fossé. Moi, quand j'entends ça de la part des porte-paroles des policiers, on cherche d'un fossé. Dans ma tête, on cherche pas quelqu'un en vie. Là.
Ben non.
On cherche un cadavre.
Les plongeurs de la Sûreté du Québec qui étaient à siphonner le fond des rivières pour être sûr et certain de ne rien rater.
Puis on le sait, là, dans des cas comme ceux-là, tu rajoutes une heure, puis les chances de survie... Je sais qu'il existe des calculs mathématiques là, qui disent, mettons, tes chances de survie baissent de 35% à chaque heure. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est une enfant de 3 ans qui a réussi à survivre tout ce temps-là. Il y a des adultes qui n'auraient pas toffé.
250 policiers de la Sûreté du Québec qui ont été mobilisés. C'est plus de 120 policiers qui étaient attitrés juste à la visualisation des caméras, des images vidéo, dont le drone. Imagine-toi, là, la personne elle regarde les images sur le drone, puis tout d'un coup, elle voit un point. Puis là, ça fait quelques jours, là, elle était comme toi puis moi, elle dit « c'est sûr qu'on cherche un cadavre », puis là, elle voit un point. Puis elle dit « c'est quoi ce point-là? Ça peut pas être ça. » Non, non, ça...
Ah bon?
C'est impossible. Voyons donc, ça... C'est-tu un chien? C'est-tu un coyote? Non, il y a un point. Ça ressemble à un enfant. Hé, hey, les gars, c'est elle!
Ça t'imagines? Doit... Le déclic mental. Parce que t'as le signalement, t'as le descriptif, tu sais qui tu cherches, mais à partir du moment où tu la vois sur le radar puis que ta voix bouger, je vais dire comme toi, là, ils ont dû faire toute l'énumération avant de se rendre. Là. C'est un animal, c'est un chevreuil, c'est quelque chose, c'est ci, c'est ça. Elle est morte, elle bouge, tabarnouche. Il y a quelqu'un qui nous a texté hier, puis d'ailleurs, ça, c'est un phénomène qui me montre qu'il nous reste encore un peu d'humanité à l'intérieur, mais le nombre de réactions émotives hier... pendant l'émission, pendant le retour de
c'est
gens
beau.
Qui... Oh, oui, oui, ça a fait du bien à tout le monde, cette nouvelle-là, hier, puis il y a quelqu'un qui l'illustrait en disant « Hey, au total tout, on va se le dire, c'est bien mieux qu'une coupe Stanley. » Oui, c'est bien mieux qu'une coupe
c'est
Stanley.
C'est collectif à un point. Oh, là, oui, oui, il y a oui. des gens qui ont arrêté leur meeting super important parce qu'il y avait les alertes, mettons, sur leur cellulaire de nouvelles. Puis on dit hey, « Excusez, des gros meetings. » C'est ce que je me suis fait dire, là. « Excusez, deux secondes. » On arrête tout.
Ils l'ont retrouvé.
Ils l'ont retrouvé.
En vie.
Puis ça a fait un bon 1, 2, 3, 5 minutes de tout le monde fais-toi ensemble.
Tu sais, pendant une heure, c'est une nouvelle qu'on a répétée à de nombreuses reprises. Puis c'est une heure où beaucoup de gens embarquent dans leur voiture. Fait qu'à chaque fois qu'on le disait, il y avait des gens qui l'entendaient pour la première fois. Puis c'était tout le temps le même genre de réaction. Puis oui, ça s'est peut-être chicané en bas d'une photo sur les réseaux sociaux. Ça s'est peut-être traité de nom en dessous d'un post de François Legault. Le monde étant le monde. Mais je pense que collectivement, les gens qui leur restent un peu d'humanité et une petite âme au fond d'eux-mêmes, c'est des gens qui ont juste souri, qui ont pensé à leurs proches, qui ont pensé à leurs enfants, puis qui ont fait fuck yeah, passe à travers.
Je parlais avec un ex-enquêteur au crime majeur de la Sûreté du Québec ce matin, puis il s'est permis de nous dire « Hey, je vais vous écouter, mais moi, ça ne me tente pas de passer en ondes, mais je vais vous dire ce que moi, je ferais suite à ce qu'on a réussi comme opération. On doit revoir absolument les critères de l'alerte Amber ou trouver autre chose, mm-hmm. un peu ce qu'on mentionnait il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire le gouvernement était capable de nous rejoindre pour nous dire « Allez-vous coucher, il est 10 heures, c'est la pandémie. »
Le fait qu'elle était en vie... Ouais. Ça rend encore ça plus indispensable, je pense.
Exact.
T'sais, de prendre conscience que tout ce temps-là, cette petite fille-là était en vie et elle attendait que quelqu'un la trouve. Là.
La jeune Claire va passer une entrevue niche. On me dit que les policiers savent c'est quoi. C'est N-I-C-H-D.
C'est quoi?
Soit non suggestive. Donc, c'est une entrevue non suggestive. C'est réalisable même si elle n'a que 3 ans. Et souvent, on y va avec des dessins. Les psychologues judiciaires devraient être présents sur place ou encore virtuellement pour assister les enquêteurs lors de cet interrogatoire-là ou lors de cette entrevue avec la petite. Il y a quelques années, il y a eu dissolution des équipes des mesures d'urgence sous l'air Mario Bouchard qui ont pour la plupart été retournées en patrouille. Ce dossier remet en perspective l'importance de cette escouade car plusieurs postes de la MRC ont été sollicités pour participer aux recherches sans que les policiers aient de formation requise.
Mmh.
Fait que les gars et les filles essayaient tant bien que mal de faire des recherches, mais ils n'ont pas les formations nécessaires pour faire ce type de recherche-là.
Un gars qui a l'air de savoir de quoi il parle.
Son point numéro 4, beaucoup de hold-back dans ce dossier, des informations retenues par les enquêteurs pour ne pas nuire à l'enquête. Bon, il dit ça peut vous aider, ça me fait plaisir de vous aider, mais moi j'ai aimé qu'on fasse appelle très rapidement à la population. Ça nous... Ça détruit en rien la réputation de la police. Mais quand vous avez rien, admettez-le, demandez l'aide de la population parce que l'objectif, c'est pas de bien paraître, l'objectif, c'est de trouver la petite ou le petit qui est disparu.
Ça a tellement été long, puis on se questionnait sur l'alerte Amber ou pas, puis là, les critères, puis toute la patente. Moi, je me disais, ils savent qu'elle est morte. La raison que je voulais pas dire en ondes, c'était ça. Ils savent qu'elle est morte. Ils savent que la mère l'a tuée, puis ils cherchent un corps. Puis c'est pour ça qu'ils font pas appel à la population, puis qu'ils font pas... Ils cherchent quelqu'un de mort. Là, rétroactivement, c'est extraordinaire. C'est un miracle. Elle est en vie, elle est saine et sauve. Mais faut pas que ça empêche les questionnements, justement, concrètement. Là.
C'est la première chose que j'ai dit ce matin.
Parce qu'il faut... considérer que c'est un miracle. Il faut considérer qu'on aurait pu et on aurait dû faire mieux. On aurait dû la trouver avant, avec tous les moyens technologiques qu'on a à notre disposition, que ce soit pour ramasser le plus grand nombre de personnes possible, pour procéder autrement. Si c'est un manque de formation, c'est des choses qu'il faut adresser.
Je suis contente que tu en parles, Denis, puis que pour toi, ça soit important à marteler à la radio, parce que ça veut dire notre tête a computé de la même manière. On est tellement habitués que ça ne travaille pas en amont dans certains dossiers avec le gouvernement, avec des ministères, des ci, des ça, qu'on en a tellement échappé pour des niaiseries. On en avait fait état dans le rapport du coroner des petites carpentiers, puis qu'il n'y a rien qui a bougé. Moi, j'ai juste peur. Et tu comprendras que c'est la plus belle chose qui est arrivée. Là. Je voulais rien d'autre que ça qui arrive, mais j'ai juste peur que par ce succès-là, on oublie de travailler sur des choses importantes.
Moi, ce serait le début de la conversation. Considérons ensemble qu'il vient d'arriver un miracle. Qu'est-ce qu'on aurait dû et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux?
Exact, exact. Ils se sont fait brasser le cul avec les petites carpentiers, ils se sont fait prendre à mentir.
Ouais.
Puis avec l'enquête du coroner, ils se sont fait brasser. Je pense qu'ils ont appris de ça. Moi, ce qui reste, le travail qui reste à faire, c'est de prendre un accord avec le gouvernement du Québec. D'après moi, ça ne devrait pas être compliqué. Et de donner aux services policiers, tant municipaux que provinciaux, le pouvoir que s'il y a quelque chose qui se passe avec un enfant et on est persuadé que la vie de l'enfant est en danger... On pèse sur le piton, mon Léon. Puis ça peut être sectoriel. Ça peut être
oui,
juste
absolument.
La grande région de Montréal parce que l'enfant est disparu au centre-ville. Ou ça peut être
cherche.
La grande région de Québec ou à Trois-Rivières ou Drummondville. Ils sont capables d'être sectoriels, mais il faut qu'ils nous rejoignent le plus rapidement
possible.
Est-ce
qu'on peut enlever la portion enlèvement de l'alerte Amber? Est-ce qu'on peut enlever c'est automatique de chercher une voiture. T'sais, y a-t-il une possibilité de juste donner... des informations, si on en a, que c'est une voiture ou autre, si on en a, on le met, mais s'il n'y en a pas, on oublie ça, puis on sort des cadres.
Quand une vie est en jeu, moi, je rentrerai en mode proactif le plus rapidement possible. Puis, effectivement, on a les moyens technologiques de rejoindre les gens. Qui va être contre ça? Puis la personne qui est contre ça, ben moi, je vais me permettre de la juger. Là. Quand on cherche une enfant disparue puis que sa vie est en jeu.
Puis je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je regarde les sondages actuellement pour la Coalition Avenir Québec. Là.
Ouais.
Puis d'amener quelque chose rapidement comme ça, ça pourrait leur faire du bien. Là.
Quelque chose qui va, je dirais, regrouper l'unanimité. Ils ont désespérément besoin de ça, oui, effectivement.
Puis pourquoi pas l'appeler Claire, ce petit signal-là?
L'alerte Claire.
L'alerte Claire.
Oui, ça a du sens.
C'est malade, hein? Je charge 10%. Okay. Commission Galant, scandale! L'ex-bras-droit de Legault savait que les coûts de sa clique explosaient. Alors, pourquoi Legault n'était pas au courant de ça? On a appris ça dans les dernières heures. Yves Ouellette était au courant des dépassements de coûts dans le dossier de sa clique dès le 7 septembre 2022. Ce jour-là, Denis Marcellet, qui était président-directeur général de la Société d'assurance automobile du Québec, rencontre M. Ouellette dans son bureau pour faire un état de la situation. Il est surtout question des budgets. M. Marcellet informe Ouellette qu'il manque 222 millions de dollars pour livrer la phase 2 du projet et que deux scénarios sont envisagés. Donc, le premier scénario consiste à publier l'avenant de 222 millions au complet dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement. Puis le deuxième, c'est le morceler, donc le séparer pour être sûr et certain que ça paraisse moins mal. Et comme le secrétaire général Yves Ouellette relevait directement du conseil exécutif, le ministère du premier ministre Legault, la SAC écrira plus tard dans un document que le premier scénario comporte un risque politique et médiatique élevé. La raison, en septembre 2022, la campagne électorale bat son plein au Québec.
Voilà.
Elle proposera plus tôt à son conseil d'administration de morceler le 222 millions en plusieurs avenants. Yves Ouellette a été nommé en 2023 à la tête de l'Autorité des marchés financiers. Le témoignage de Marcellet se poursuivra aujourd'hui.
À la lumière de ces nouvelles informations, il n'y a plus personne qui va réussir à me faire croire que François Legault n'était pas au courant.
Tout ça était politique.
En pleine campagne électorale.
Ben oui, tout ça était politique.
Et voilà. Regarde-moi pas tomber en bas de ma chaise.
Fait qu'ils en ont besoin du questionnement sur l'alerte Amber.
Oui.
Ça va-tu? Oui, Pascal?
On a
notre ami?
Oui.
Jeff Fortin qui sort de la rencontre avec le maire de la ville de Québec, Bruno Marchand. Salut, Jeff!
Salut, comment ça va?
T'es dans le pit stop avec Denis. T'as assisté à la conférence de presse de Bruno Marchand ce matin. De quoi il était question, puis qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans?
Ben, c'est sûr que Bruno Marchand a parlé du projet de SRB+ de Sam Ahmad, et sans surprise, mais il est allé à l'encontre de ce projet-là, en mentionnant notamment que c'était un projet d'apprenti sorcier, que c'était monté par des bénévoles qui n'ont aucune expertise par rapport aux gens là qui ont fait le plan cité et qui ont fait les études depuis 20 ans, qui mènent un tramway. Alors, c'était l'essentiel là, du message là, de Bruno Marchand.
OK. Ben, je salue toutes les gens qui font du bénévolat. Sachez que Bruno Marchand semble vous reconnaître.
En effet. Non, mais...
faut juste pas oublier que Sam Ahmad est ingénieur de formation et son bras droit qui était avec lui hier lors de l'annonce est aussi un ingénieur. Là, donc, qu'il soit payé aux bénévoles, d'après moi, ils doivent faire leur travail assez efficace. Là.
Oui, du côté de Daniel Lessard, faut pas oublier qu'il a participé au plan de mobilité durable de 2011 de la Ville de Québec. Il a été gestionnaire au niveau des infrastructures de la Ville de Québec jusqu'en 2022, au moment de sa retraite, même directeur. Alors, c'est pas n'importe qui, là. C'est pas un petit coun qui a décidé de s'asseoir. Je vais faire un comparatif. C'est pas les petits monsieur sympathiques que j'ai rencontrés quand je suis allé là, à la présentation des corridors du troisième lien à Lévis, qui, eux, me sortaient un nouveau corridor de leur valise. Là. On n'était pas là du tout.
Y a-t-il d'autres choses qui t'ont surpris? On me dit que le maire Marchand, tout ce qu'il veut, c'est continuer d'avancer dans le dossier du tramway. Puis il veut pas de bruit sonore autour, si ce n'est que ce projet-là.
Exactement. Puis honnêtement, tu sais, l'épine que Bruno Marchand a dans son pied à l'heure actuelle, c'est le fait que le gouvernement n'a jamais donné son aval pour le plan cité au complet. Alors lui, projet de Sam Ahmad, il dit toujours ouais, mais voyons donc, c'est bien mieux une colonne vertébrale, un réseau structurant tramway qu'en SRB parce que ça a plus de capacité. Mais le plan cité à l'heure actuelle, comme la Caisse de dépôt l'a prévu, avec trois trajets de tramway, des SRB, des parcours express qui se rabattent sur ce tramway-là, il y a seulement le trajet numéro un à Hauteville qui a été accepté de la part du gouvernement, et on parle d'un projet évalué à l'heure actuelle à 7,6 milliards, tandis qu'avec le projet de Sam Ahmad en SRB, c'est 4,2 milliards pour desservir la totalité de la Ville de Québec. Et ça, quand on le questionne là-dessus, ben c'est juste, j'ai confiance, Mark Carney a dit qu'il allait avoir de l'argent de plus en 2026, Jonathan Julien me dit qu'il voulait le plan cité. C'est beau des oui-dire, mais c'est rien de canné comparativement là, à ce que Sam Ahmad a présenté, qui pourrait se canner plus rapidement.
Jeff, il y a des chiffres qui sont sortis ce matin concernant le transport en général dans la région de Québec. Il y a une stabilisation relative autant sur les gens qui prennent le transport en commun que les gens qui font du transport inter-rive et ainsi de suite. Puis on utilise ces chiffres-là, en tout cas des spécialistes utilisent ces chiffres-là pour dire le troisième lien, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes chiffres pour faire en sorte que le projet de Sam Ahmad soit viable, même s'il n'y a pas la même capacité qu'un tramway? Et est-ce que le maire Marchand doute de l'application physique du plan de Sam Ahmad? Je comprends qu'il aime mieux le tramway puis qu'il veut le prioriser, mais au niveau logistique, au niveau ingénierie, au niveau applicabilité, est-ce qu'il remet ce projet-là en doute?
C'est clair qu'Origine Destination vient également là, faire une jambette au projet de tramway, parce que avec 8,9% de diminution au niveau du transport en commun, et quand on regarde les chiffres d'achalandage du RTC à l'heure actuelle en 2024, ça correspond à ce qu'on avait en 2015. Et en 2015, à ce moment-là, on regardait pour un SRB et on disait que ce SRB-là devrait être transformé en tramway en 2040. Donc, si ces chiffres-là de 2025 correspondent à ceux de 2015, ça veut dire que on pourrait faire un SRB. Ça ferait en sorte qu'on absorberait la capacité de gens qui sont en transport en commun et l'augmentation qu'on prévoit. Et ça donnerait la latitude au SRB de le faire jusqu'en 2050 avec l'augmentation de la démographie et des déplacements de la Ville de Québec. Alors, c'est clair que ça, Bruno Marchand essaye de se défendre en disant « Non, l'augmentation de la démographie est plus élevée. Non, mais là, les gens ont un appétit pour le transport en commun. On a des hausses significatives en 2024 et en 2025. » Mais la donnée origine-destination vient faire extrêmement mal au propre.
Les statistiques ne mentent pas. Certains politiciens, oui. Est-ce que tu me dis qu'on est à peu près rendu au même niveau que 2015? Toi qui as travaillé au RTC, oui. Je profite constamment du fait que tu as travaillé au RTC. Y a-tu plus d'employés aujourd'hui qu'en 2015?
Il y a nécessairement plus de cadres.
Est-ce que ces employés-là sont payés plus cher qu'en 2015?
Ben oui, parce que le coût de la vie a augmenté. Là. Fait que si je regarde, moi, le poste que je faisais au RTC, puis là, ben, je n'avais pas décidé de faire plein d'autres choses, dont de la radio. Je peux te dire une affaire. J'aurais un salaire à peu près de 135 000 $.
Est-ce que les budgets pour ce qui est du RTC ont augmenté depuis 2015?
Ils ont augmenté significativement parce qu'en 2015, on parlait peut-être quoi d'un budget, puis là, je vais y aller de mémoire, là, mais un budget de 180, 185 millions, et là, on était aux alentours de 240.
Est-ce qu'on se rend plus loin avec les autobus du RTC depuis 2015?
Non, on a créé quelques nouveaux parcours métrobus, mais en tant que tel, là, t'sais, il n'y a pas eu de révolution majeure là, du réseau là, comme on avait vécu là, justement là, au début des parcours 800 et 801.
Donc, avec toutes ces centaines de millions investis, avec tous ces employés qui ont été embauchés, les employés qu'on a de plus aujourd'hui qu'on avait en 2015, avec les parcours qui ont été améliorés, avec les fréquences qui ont été améliorées, avec les abris d'autobus qui sont hallucinants, un abri d'autobus maintenant, ça peut valoir quoi? 2 millions de dollars, 1 million de dollars, tout dépendant où vous êtes. Là.
Ouais, et ils sont tempérés et non chauffés, là, j'aimerais le dire. Là. T'as même pas chaud dedans.
Quand tu prends un abri d'autobus à 2 millions, tu le regardes, tu dis, un peu, un panneau numérique, un bloc de béton, ouais. Des fenêtres autour, un toit, une petite monture, 2 millions, puis tu regardes une maison à 2 millions.
Oui, c'est ça, mais c'est un feu de circulation rendu à 1 million à longueur.
Non, mais tu comprends-tu, malgré tout l'argent qu'on a investi depuis 10 ans, il y a 10%,
on n'augmente pas l'achalandage.
Il y a 10% de gens de moins, puis on est devenu comme un super de bon employeur pour la ville de Québec parce qu'on a embauché.
Mais t'as entièrement raison. T'sais, normalement, avec les investissements qui ont été faits dans la RTC, origine, destination, je devrais regarder ça puis dire, « Hey, Colin, il y a 10, 12, 15% de plus de gens qui prennent le transport en commun. » Puis en même temps, c'est ce qui est questionnant parce que, tu sais, moi, quand on me dit, « Hey, avec le tramway, là, on va aller chercher entre 8 à 11% de plus de gens dans le transport en commun. » OK, attends une minute. Avec toutes les améliorations que tu as faites depuis 10 ans, tu as une baisse de 10%.
Il l'explique comment, ça, le fait qu'on dépense constamment plus, que le RTC n'est même pas capable d'arriver dans son budget, puis qu'on arrive avec un gros dossier pour la Ville de Québec qui n'est pas capable de gérer, qu'on a confié au provincial. Bon, on ne sait pas trop la part qu'on va payer pour la Ville de Québec. On ne sait pas trop comment le provincial va payer pour le tramway.
On l'explique souvent en disant que c'est normal des déficits dans le transport en commun. Ouais. C'est souvent la ligne qu'on
utilise. Alors qu'il y a une loi qui existe.
C'est vrai ce qu'ils disent.
Il y a une loi qui existe et pas supposé d'en faire des déficits. Là, y a-t-il une grève qui s'en vient, Pascal?
Ce matin, on a reçu, oui, effectivement, un communiqué pour des négociations au RTC. Fait qu'en plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, ben, y a aussi les salariés d'entretien du RTC qui ne semblent pas nécessairement contents de tout ce qui se passe. Débrayage de 10 jours qui serait déclenché le 4 juillet. Regardez, c'est quoi au calendrier le 4 juillet? Ouais. Donc, le but, ce ne serait pas de faire la grève à tout prix, mais ce serait de faire pression à la ville pour la période la plus achalandée de l'année. Là, on fait ce fort pour en arriver rapidement à un règlement satisfaisant pour les deux parties. C'est ce que le président du syndicat disait dans un communiqué ce matin.
Merci, Jeff Fortin. Tu viens dans le retour tantôt, j'imagine?
Yes!
Je viens de faire un petit tour.
Bon, ça fait du bien de t'entendre le midi, hein? Pas juste dans le retour.
Merci.
Ouais.
Yes!
Hey, Jeff! Good job! Jeff Fortin qui était à la conférence du maire Marchand. Donc, il y aura des extraits audio du maire Marchand de cette conférence-là tantôt dans l'émission de Denis. Puis nous, ben, dans les prochaines minutes, on va recevoir Sam Hamad.
Oh yes!
Qui va venir faire
l'apprenti sorcier lui-même.
Ben oui!
Abracadabra!
Qui fait faire du travail d'ingénierie par des bénévoles.
Vous le savez, hein, si vous n'avez pas de salaire, vous travaillez mal.
C'est ça. Wow! Midi 29, courte pause, on vient. Et Pascal Cévé. Midi 38, c'est 20 degrés sur Québec. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021. Pascal.
Arrestation pour un incendie criminel dans les dernières minutes. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais il y avait du côté de l'ancienne Lorette un incendie qui était assez violent, puis on a mis la main sur des suspects. Alors, on aura plus d'informations dans quelques minutes, mais sachez que ça commence à se dénouer.
Le maire Marchand a dit le projet de Samamad, son projet de SRB, c'est un projet d'apprentissage. Petit sorcier, selon M. le maire. Puis on a le plaisir d'avoir devant nous Sam Hamad, qui est chef de Leadership Québec, équipe Sam Hamad. M. Hamad, bonjour!
Bonjour!
Êtes-vous un apprenti sorcier?
Sincèrement, je commence à être habitué avec les insultes de M. Marchand. Et l'être humain, quand t'as rien à dire, il fait quoi? Il envoie des insultes. Mais moi, je suis habitué, là, commence à être habitué. Mais c'est une insulte qu'il envoie à la Caisse de dépôt. Parce que nous, on a pris le 3/4 ou 80% des recommandations de la Caisse de dépôt. Donc, il les trouve comme il les appelle. Là. Je ne vais pas répéter ce qu'il dit. Et l'autre élément, hier, lorsqu'on a fait l'annonce, j'étais avec un ingénieur, Daniel Lessard, qui était l'ancien directeur de l'ingénierie de la Ville de Québec pendant 15 ans. Il a travaillé avec M. Lallier, il a travaillé avec M. Labombe, Mme Boucher, et il a fait un an avec M. Marchand. Alors, il le traite, un directeur d'ingénierie avec tant d'expérience, tant de compétences, il le traite de même, mais parce que... Il est nerveux, je pense.
Vous êtes ingénieur de formation aussi.
Oui.
Ça faisait deux ingénieurs sur le dossier. Est-ce que quand on est bénévole ingénieur, on travaille moins bien que quand on est rémunéré?
Daniel Lessard était bénévole, toute mon équipe, parce que nous autres, on est tous des bénévoles dans la campagne, contrairement à M. Marchand, qui est équipé avec des attachés politiques puis du monde. Même son monde, il ne donne pas la bonne chose parce qu'il se trompe des fois. Mais nous, on travaille fort, on est des bénévoles. C'est des gens dévoués. C'est des gens qui veulent faire du changement, c'est des gens qui croient au projet qu'on a présenté hier. C'est surtout, c'est des gens qui reflètent les citoyens de Québec.
Ouais. Parlez-nous de votre projet, puis après ça, ma deuxième question, ça va être pourquoi on a tué ce projet-là sous l'air Labombe?
En fait, notre projet est simple, c'est quatre éléments. C'est un projet qui va se réaliser rapidement. Ce qu'on propose, en fait, on commence en 2026, on finit en 2031 avec une mise de service partielle 2029. Il va coûter la moitié du coût, ce qu'on a actuellement.
Comment vous avez réussi ça?
Bien, parce qu'on a enlevé le tunnel. C'est une bonne question. On a enlevé le tunnel qu'on a prévu de faire dans le centre-ville et on a enlevé ses travaux, puis on a enlevé le tramway. En enlevant le tramway et le tunnel, on vient de baisser énormément les coûts, mais tout en pensant aux gens de banlieue. L'idée principale, comment on peut servir les gens de banlieue rapidement avec des moyens de transport efficaces? On a repris les études qui étaient faites par la Caisse et on part à partir de ces études-là qui étaient faites il y a un an et on va en l'avant et on utilise la majorité des travaux préparatoires.
Alors, ce que vous dites, c'est que par les études de la Caisse de dépôt et placement qui ont été faites, orchestré, demandé aussi, la CAQ qui a été impliquée là-dedans, veut pas. Il n'y avait pas juste un projet qui était possible, comme on nous dit depuis plusieurs mois, voire années.
Les études, en général, ils donnent un tracé, un chemin, puis ils donnent le mode de transport qu'on met là-dessus. Nous, on a pris le tracé, puis on a dit le mode de transport qui répond aux attentes à la fin, c'est le SRB, qui nous permet d'aller plus rapidement sans avoir des travaux intrusifs dans le Vieux-Québec, dans Québec, dans le centre-ville, et aussi servir les gens des banlieues, Charlebourg, Le Bourgneuf, Val-Balaire, et Beauport et Haut-Saint-Charles. Et ça nous permet, en faisant ce projet-là, aller plus rapidement, commencer demain, et... finir plus tôt, à peu près 10 ans de différence. Parce que l'autre projet du tramway, là, il finissait 2035 et après. Mais le problème de congestion, le problème de transport, c'est aujourd'hui. Puis il faut qu'on le fasse rapidement.
Est-ce que Beauport a été pensé dans votre projet?
Oui, oui.
D'Estimoville?
D'Estimoville aussi, évidemment. Ici, là, où on est, mettons...
Le Bourgneuf.
Le Bourgneuf, ça va être servi par un SRB. D'Estimoville va être servi par un SRB aussi, qui va aller à Saint-Roch. Puis à partir de Saint-Roch, on prend boulevard Charest, on remonte vers l'Université Laval. On n'est pas loin non plus de Cégep Sainte-Foy, qui n'était pas servi avec l'autre projet. Puis à partir de l'Université Laval, on s'en va en SRB vers Legendre, Cap-Rouge. Donc, on sert tout ce monde-là. Et en même temps, on va déployer des autobus express ou des voies réservées qui viennent du banlieue puis vont avoir un rabattement pour arriver dans le centre-ville.
Pourquoi on l'avait tué à l'époque, ce projet-là?
C'était controversé, Charest, auparavant.
Oui. Oui, mais on l'a tué. Il y a eu un virage. Il y a eu des études depuis 2007 à Québec, la ville de Québec, des ingénieurs qui sont mis là-dedans, puis ont recommandé à plusieurs reprises le SRB. En 2015, on est venu avec un projet de SRB. Et à un moment donné, il y a un virage, puis ce virage-là était en 2018, après l'élection de 2017 du maire, où on a dit on va faire un tramway, parce que le gouvernement provincial a proposé le tramway à la ville de Québec, puis était prêt à payer, puis etc. Puis dans le temps, il était 3 milliards. Lorsqu'on a annoncé le tramway la première fois, 3 milliards, on est rendu à 10 milliards.
Ouais.
Et on a, puis historiquement, quand ils ont l'équipe de M. Marchand, ils ont envoyé des documents pour faire des appels d'offres, les consortiums ont refusé de s'émissionner. Vous vous rappelez cette oui. période-là en 2023?
Il n'y avait personne.
Et il n'y avait personne parce qu'ils voyaient, c'était pas, on ne peut pas s'émissionner. Les banques ont dit non, on ne peut pas cautionner. Et il a décidé de le faire lui-même. Ouais. Parce que lui, il est très bon. Lui,
moi,
il n'est pas sorcier.
Je suis un cheap, M. Hamad. Je suis quelqu'un qui déteste donner de l'argent à des politiciens. Moi, je suis un cheap. Là. Je préfère m'occuper de mon argent. Puis quand j'envoie de l'argent aux politiciens, je m'assure qu'ils... Ben, en fait, j'aimerais que ces gens-là s'occupent des deniers que je leur confie puis qu'ils les utilisent à bon escient.
Je suis d'accord avec toi.
Y a-tu... Ah oui, vous êtes de droite économique?
Oui.
On va peut-être être amis un jour.
Ben, en passant, c'est pas nouveau. Là. J'ai toujours été. été dans toute la gestion que j'ai fait.
Y a-tu un gain? Je comprends que le projet est beaucoup moins cher puis qu'il pourrait voir le jour un peu plus rapidement. Mais est-ce qu'il y a un gain de temps? Est-ce qu'il y a une économie aussi en bout de ligne?
Il y a, premièrement, par rapport à l'autre projet, l'autre projet, les gens ne le savent pas. Tous les coûts d'opération, d'entretien du tramway, c'est à la charge à la ville.
Oui.
Et ça, automatiquement, il y a une augmentation des coûts. Et quand on a une augmentation des coûts RTC, qu'est-ce qu'on fait? On fait des déficits ou on taxe. On a vu la taxe sur l'immatriculation. En faisant ce projet-là qu'on propose, on élimine cette variable-là. Deuxième élément, dans l'ancien projet, on fait des tunnels. Puis ces tunnels-là, évidemment, en ingénierie, c'est connu. N'importe quel ingénieur peut vous le dire. Quand on fait des tunnels, on ne contrôle pas les coûts.
Mais par rapport à ce qu'on a là présentement,
ce qu'on a là, on a besoin d'un transport. Moi, je parle à des gens de Val-Balaire, à Beauport, partout. Ils disent, j'ai le misère, ça me prend une heure et demie avant d'arriver.
Ah non, c'est épouvantable. Avoir vécu cinq ans à Beauport, c'est impossible.
Il y a un besoin.
Il y aurait un gain de temps. Mais par rapport à ce qu'on a là, puis ce que ça nous coûte là présentement, ça nous coûte extrêmement cher. On parlait avec notre ami Jeff tantôt qui a travaillé au RTC, qui était gestionnaire. Il y avait beaucoup moins d'employés au RTC en 2015. Les budgets étaient moins élevés. Puis, il y avait peut-être un peu moins de services. Là, il y a plus de services, plus d'employés. Les budgets sont plus élevés. Les salaires sont plus élevés. Mais on perd à peu près 10 % là, de l'achalandage dans nos autobus. Tu sais, moi, je me dis, mais pourquoi on laisse pas ça comme ça? On utilise des plus petits autobus à certains endroits, puis on touche à rien, puis on se casse plus à la tête.
Je vais ajouter ce que vous avez dit.
Oui.
Depuis 4 ans, le nombre de chauffeurs a baissé. À RTC. Si vous baissez le nombre de chauffeurs parce que vous donnez moins de services, le nombre d'employés de bureau a augmenté. Le déficit de l'RTC a augmenté. Ça, c'est une situation inacceptable.
Mais on a quand même perdu 10 % de l'achalandage, M. Hamad. Fait que
exact.
On va embarquer dans un projet, votre projet à vous, qui est de quelques milliards de dollars. On va embarquer dans le projet de tramway qui est de plusieurs milliards de dollars.
Le double.
Mais y a-t-il avoir plus de monde dedans?
Oui, parce qu'il va y avoir plus de gains pour les citoyens. Parce qu'actuellement, les gens de Val-Balaire me disent, ici, là, le Bourgneuf, là, comment, c'est difficile de se déplacer. Il faut revoir le système. Comment on revoit?
La nouvelle clientèle, selon vous, mettons?
Bien, on va, la clientèle actuelle, on va les aider d'aller plus vite. Ça, c'est la première étape, c'est comment on peut mieux servir, couvrir le territoire. Avec ce projet-là, on veut mieux couvrir le territoire et aider les gens à aller plus rapidement. Quand le déplacement va être en bas de 60 minutes, de toutes les banlieues, les gens vont être encouragés à en prendre. C'est pas tout le monde. Demain matin, les gens qui ont besoin d'un auto, ils vont continuer à utiliser leur auto, comme mon cas à moi. Une maman qui amène son bébé à la garderie a besoin de l'auto, un travailleur, etc. Moi, dans mon cas à moi, c'est pas une guerre à l'auto, jamais. Je le sais que les gens ont besoin de leur auto pour toutes les raisons. Mais les gens qui utilisent, ils ont besoin. Les jeunes qui veulent aller au cégep, à l'école, ils ont besoin. Moi, j'ai un collègue ou un employé qui travaille avec moi. Il habite à Sillery. Puis mon bureau, il n'est pas loin de Robert Bourassa, Pepsi.
Ouais.
Puis quand je l'ai embauché, je l'ai trouvé intelligent, bon. Puis j'ai dit, ben t'es pas loin. Ben il m'a dit, moi, je prends pas l'auto et pour des raisons de santé. Mais je dis, OK, prends l'autobus. Il a calculé, ça prend une heure et quelques avant d'arriver. C'est de série.
C'est clair qu'il faut aider ces gens-là, mais est-ce qu'on peut les aider avec un système d'autobus? Je comprends pas.
Un système d'autobus plus efficace.
Oui.
Plus efficace.
Mais là, en passant, quand on s'était croisés dans le corridor, vous veniez avec Denis.
Oui.
Moi, j'écoute vos entrevues que vous faites partout, OK? Puis j'avais vu que vous répétiez souvent Brisbane.
Oui.
Puis là, je me suis dit, j'ai regardé le métro à Brisbane. Là, je me suis dit, c'est ça qu'il va nous présenter.
En fait, Brisbane, c'est pas un métro, c'est un SRB.
Oui, mais ils l'appellent le métro.
Oui, mais qu'en Europe, en Australie, on donne une sorte de
nom. Là, j'avais vu que c'est deux, trois autobus collés ensemble en accordéon, on cache les roues, puis on appelle ça un SRB.
Oui, bien, c'est dans ce cas-là. En fait, le SRB, c'est quoi? C'est un autobus articulé.
Oui.
Il peut être deux morceaux ou trois. Pourquoi trois? Parce que c'est une capacité plus élevée. S'il y a une capacité plus élevée, il est capable de transporter plus de monde. Puis la vitesse, elle est bonne parce que sur une voie dédiée.
Est-ce qu'on doit mettre une grosse dalle de béton à la grandeur?
C'est une dalle qui supporte un autobus, c'est tout.
Okay.
Ce qu'il faut faire, c'est enlever les infrastructures en dessous de la dalle pour la tasser.
Ce qui a déjà été fait.
Et ce qui était déjà fait en partie. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce que ça nous permet, si jamais il y a un bris d'aqueduc, mais on ne va pas bloquer le cheminement. En fait, c'est comme le tramway, sauf qu'il n'y a pas de rail, il n'y a pas de dalle de béton surélevée, il n'y a pas de bruit.
C'est ma prochaine question. 2050, on se dit, bon, ben le SRB, là, ça nous a toffé quelques années, quelques décennies, on est content. Est-ce qu'on peut arriver avec un tramway par la suite là-dessus?
Très bonne question.
Faites-moi pas des sourires comme ça. Vous me mettez mal à l'aise, M. Hamann.
Non, mais parce que quand vous dites des bonnes choses, je souris. Et je suis un gars souriant. Je suis pas un gars Alors, je trouve que c'est des bonnes questions. Je suis content de l'entendre pour ça. Je suis heureux d'entendre ta question.
Je suis toujours en mode solution, moi.
Ouais, c'est bon. Les bonnes solutions. Es-tu d'accord? C'est les bonnes solutions.
Oui.
OK. Alors, donc, nous, ce qu'on fait dans notre projet, c'est qu'on va faire des infrastructures qui vont durer longtemps. Si un jour, dans 20 ans, dans 15 ans, on pense que la technologie a changé, s'est améliorée, on a les moyens de payer, c'est important, les moyens, la capacité de citoyen de payer et la densité nécessaire, mais on peut convertir ce qu'on fait comme infrastructure pour d'autres projets.
Est-ce qu'on enlève des voies routières?
On va faire des voies réservées, mais on va permettre à deux personnes dans l'auto de circuler dans les voies réservées.
Sur ces voies-là. Donc, sur Charest, exemple?
Oui, il va y avoir des voies réservées en partie, mais il va y avoir aussi les SRB.
Parfait. Ce qu'on n'aurait pas pu faire dans le cas du tramway?
Dans le cas du tramway, c'est plus large, c'est plus lourd. C'est plus lourd.
Okay.
C'est le tramway, il prend plus d'infrastructures et évidemment, les travaux sont plus complexes dans le tramway. Mais il n'y a pas de tramway dans Charest, de toute façon. Il n'y avait pas de tramway dans le plan. Le plan qui est critiqué par le maire, là.
Oui, qui était fait par un projet d'apprenti sorcier fait par des ingénieurs bénévoles.
Mais oui. Puis c'était une copie pas mal, 80% du plan qui est fait par la Caisse de dépôt. Alors, je viens de comprendre que pour M. Marchand, la Caisse de dépôt, c'est des... Comment vous avez dit ça? Apprentis sorciers?
Des apprentis sorciers.
Mais oui.
Est-ce que vous êtes satisfait des sondages jusqu'à maintenant? Vous êtes deuxième, vous venez d'arriver dans la course. J'ai trouvé votre départ un peu lent, bien honnêtement. Là, je l'ai trouvé un peu lent. Mmh. Mais là, avec ce projet-là qui arrive dans l'aventure, en jasant un peu avec des amis qui n'ont rien à voir avec le monde des médias, c'est tout le temps des gens un peu bizarres, mais le vrai monde, là, les gens disent « Oh, ben là, on a une autre option qu'on peut avoir. » Le maire Marchand dit « Non, il faut continuer, puis il va faire son possible pour d'où dépenser l'argent, soit dit en passant, parce que c'est le nerf de la guerre. S'il dépense tout l'argent, après ça, on va se dire « Ouais, mais là, on s'est lancé là-dedans, on ne peut plus reculer. » Les gens semblent très heureux de cette deuxième option-là.
C'est un point important, vous venez de dire, là. Il veut dépenser de l'argent pour menotter les citoyens de la Ville de Québec. Vous dites « Vous n'avez pas le choix. » Mais j'ai une bonne nouvelle. On va utiliser une grosse partie de l'argent dépensé pour notre projet. Donc, on ne recule pas, on avance. Et ça va nous aider à avancer plus vite aussi. Parce que les infrastructures, c'est les mêmes, puis vont servir pour la ville. Pour les sondages, on va attendre. Puis je ne commenterai pas chaque sondage. On est parti pour en avoir plein de sondages. Celui-là, il n'est vraiment pas représentatif. 400 personnes, la Ville de Québec, là. Fait que moi, je pense... Puis moi, mon meilleur sondage, c'est le terrain. C'est rencontrer les gens, rencontrer... Et j'ai toujours fait. C'est là qu'on entend le vrai.
J'aime pas bien politicien, M. Hamad, je pense que vous le savez. Là. J'ai tout le temps de la misère parce que je me suis fait trahir plusieurs fois. Je pense que c'est le cas de plusieurs électeurs. On s'est fait trahir. On est devenu cacu pour certains. j'ai de la misère. Puis j'ai l'impression des fois que certains politiciens font leur campagne électorale avec la droite économique. Puis après ça, une fois rendus au pouvoir, ils s'en vont vers le centre. Puis après ça, c'est le centre-gauche pour ce qui est pour ce qui est de l'économie.
Oui.
Il y avait énormément de promesses de Bruno Marchand qui avaient été faites alors qu'on ne le connaissait pas. Il disait, il n'est pas question qu'on embarque dans le projet de tramway si on n'a pas toute la population derrière nous. Alors que quand il est arrivé à la mairie, il a fait tout le contraire. Je me suis souvent fait trahir. C'est pour ça que j'ai un peu de misère avec les politiciens. Mais est-ce que vous allez continuer d'être de droite économique quand vous allez arriver à la Ville de Québec? Parce qu'il y a un gros ménage à faire.
J'ai toujours été.
Gens qui s'occupent du tourisme, qui sont à plusieurs endroits en même temps avec la carte de crédit de la Ville, qui réclament de l'argent. Puis le maire dit, savez-vous quoi? Il va devoir répondre à ces questions-là, mais ce gars-là est encore payé. Là,
puis il a demandé de rembourser seulement au lieu de aller plus loin.
Vous allez faire quoi quand vous prenez place
à la
mairie?
J'ai toujours été. C'est pas nouveau pour moi. Moi, là, actuellement, là, j'ai une bonne vie. Ça va bien, puis j'ai décidé de venir servir parce que je vais perdre en termes de salaire, je vais perdre en termes de qualité de vie, mais parce que j'aime ma ville.
Vous allez vous faire achaler.
Puis je suis indépendant, mais je suis indépendant, puis je vais faire ce qui est le mieux pour les citoyens. Si je voulais juste dépenser, on s'en va avec le tramway, ça a l'air beau, ça a l'air chic, ça a l'air intéressant, des milliards puis des milliards, non. L'intérêt du citoyen passe avant tout le monde. J'ai un intérêt, c'est servir. D'ailleurs, la première démonstration qu'on a faite, c'est le 60 $ sur la taxe marchande, sur l'immatriculation, qu'on va retourner aux citoyens, puis on va faire des coupures, on va gérer mieux pour diminuer les taxes des citoyens. Ça, c'est une démonstration qu'on va gérer. D'ailleurs, dans notre programme, vous allez voir plus tard, on va travailler aussi le budget de la ville, les dépenses de la ville. Okay.
Qu'est-ce qu'on fait avec le directeur de la ville qui, lui, a signé toutes les dépenses du dit monsieur qui dépensait à plusieurs endroits en même temps?
J'ai trouvé ça ridicule de redemander aux mêmes personnes qui ont approuvé les dépenses de revérifier les dépenses. Comment vous pensez ce que vous venez de dire? La réponse va être la même. Moi, ce que j'ai suggéré dans cette situation-là, très rapidement, le vérificateur général, le plus rapidement, pas juste les comptes de dépenses, mais voir comment ça se fait qu'on fait des dépenses de même qui sont approuvées et qu'on n'entend pas parler.
Parce que je parle avec des fonctionnaires de la ville qui disent « Tabarouette, Yann, la gestion est hyper rigoureuse. » Puis là, de l'autre côté, on voit ce monsieur-là qui se promenait un peu partout puis qui allait dans les plus belles tables à Québec, qui se gâtait.
Exact.
Mais il y a quelqu'un qui voyait ces factures-là passer.
Absolument.
Directeur de la ville, M. Monti, on fait quoi avec?
Bien, en fait, moi, je ne vais pas parler des noms de personnes ici. Il faut respecter les humains qui sont là. On va revenir, on va impliquer la rigueur financière.
Le gardez-vous en place?
La rigueur financière, je ne vais pas trop aller dans ce détail-là. La rigueur financière, pour moi, ce n'est pas juste les humains, mais c'est la gestion globale. C'est le nombre d'employés, l'efficacité des dépenses, la nécessité d'augmenter les taxes. Tous ces éléments-là, il faut les regarder de près. Et on a déjà notre analyse déjà faite, et ça va venir pendant la campagne.
Lui qui se promenait avec la carte de crédit, qui est en congé de maladie, j'imagine que, j'espère que tout va bien pour lui puis qu'il va revenir au travail à un moment donné, mais on fait quoi avec lui?
En fait, d'après moi, c'est terminé, c'est clair. Je ne vais pas faire le jugement aujourd'hui. On va attendre les... Moi, je veux plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Cette situation-là, est-ce que c'est le point de l'iceberg? Pour ça, ça prend le vérificateur général de la ville, qui, lui, est indépendant, je comprends, mais je pense que c'est une situation qui demande une vérification pour savoir aussi le système d'approbation, comment c'est fait pour arriver là, et il ne faut pas qu'on aille ça ailleurs. Exemple que j'ai demandé à plusieurs reprises, je n'ai pas de réponse. Capital Mobilité, il utilise l'argent des citoyens, puis on n'est pas capable d'avoir les états financiers publiquement. C'est pas normal, c'est pas correct, là. Et ça, là, c'est de l'argent de la taxe sur l'immatriculation qu'on la dépense là. Ils ont eu des commanditaires, puis ils ne veulent pas divulguer les montants. Inacceptable. C'est notre argent. Et ça, c'est un autre exemple là, flagrant de la nécessité de mettre en place la rigueur financière.
Le fameux fonds vert du maire Marchand, on fait quoi avec ça?
Bien, je pense que lui, dans sa tête, il est tout seul au monde. Puis on va nous gérer ça, puis les autres, mais c'est pas grave. C'est la même chose que le taxe d'immatriculation.
Est-ce que vous le gardez?
on va utiliser d'autres choses. C'est l'argent qui est là, il faut utiliser d'autres choses.
Parce que lui, c'est de l'argent qui s'est mis de côté dans l'espoir qu'à sa dernière année de service, juste avant de se représenter aux prochaines élections,
il l'a utilisé déjà.
Il allait faire des cadeaux. Des patinoires!
Exact, exact. Absolument. Puis c'est comme ça, son principe, il applique comme la taxe sur l'immatriculation. Les gens à Saint-Augustin, il n'y avait pas de taxe. Ils ont refusé de mettre une taxe additionnelle. Donc, on est comme tout seul. Puis les chicanes avec les autres maires, évidemment, on l'a vu avec le maire Saint-Augustin, avec Gilles Loyer, etc., avec le gouvernement. C'est pas comme ça qu'il faut gérer la ville. Il faut travailler ensemble.
Ouais. Jusqu'à maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Les gens vous disent quoi? Parce que vous êtes ma mère, là. Vous aviez les chiffres d'enquête origine-destination d'avance. Je sais que vous êtes ma mère. Vous êtes constamment au téléphone.
Toi aussi, t'es ma mère.
Ben oui, on est tous des mamans, là, c'est ça? Comment vous avez eu ces chiffres-là?
Ben, c'est... en fait, les chiffres viennent de sortir. Le Journal de Québec, aujourd'hui, ils l'ont sorti.
Oui, mais vous l'avez sorti hier.
Il confirme. Moi, j'ai dit, j'avais des feelings. Ils n'aiment pas ça, mes feelings. Puis aujourd'hui, ça confirme ce que j'ai dit hier.
Ouais.
Alors, quand il parle de mon feeling, là, ça confirme qu'actuellement, l'usage de transport en commun a baissé, le nombre de véhicules, l'utilisation de véhicules à la région de Québec a baissé. Donc, les chiffres qu'on vantait, qu'on va augmenter. Par contre, la population va augmenter. C'est normal. Puis j'espère qu'on va augmenter le nombre de la population. Alors, c'est sur le terrain, maintenant, répondre à votre question. Moi, je fais beaucoup de terrain.
Ouais.
Avec nos candidats, on commence à faire pas mal de terrain. J'adore ça, aller à l'épicerie tout seul, rencontrer le monde, les entendre. Ça me permet de confirmer des choses. Ça me permet d'avoir d'autres idées que je n'ai pas vues, puis qu'on bâtit un programme qui répond à leurs besoins.
Là, vous avez deux conseillers actuellement actifs à la Ville de Québec?
Oui. Oui, on a maintenant notre parti là, officiel à l'Hôtel de Ville.
Allez-vous présenter des conseillers dans toutes les circonscriptions?
Oui, dans tous
les
districts.
Les districts, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Les districts, et oui. Et à date, on a présenté 7. Oui. Et évidemment, on va compléter. On a beaucoup de demandes. On a déjà des candidats prêts pour annoncer, puis on va compléter après.
Pour le CRB, M. Hamad, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, il va falloir faire de la densité?
Oui.
Est-ce qu'on doit continuer à monter les buildings plus haut?
On a besoin de la densité.
Ouais.
Le mettre à boulevard Charest, c'est justement aider la densité. Tout le développement qui va se faire à partir de Legendre, Quatre-Bourgeois...
Il va falloir modifier des lois.
Bien, la ville, elle a un pouvoir d'augmenter, puis elle a travaillé là-dedans, puis il faut augmenter la densité.
Ouais.
Il faut aider le développement, parce que plus qu'on s'étale, bien, c'est pas bon pour le transport en commun, c'est pas bon pour les citoyens. Absolument, il faut augmenter la densité.
Saint-Roch, M. Hamad, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Saint-Roch, moi, je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs décennies. Je suis né là, j'ai grandi là, je suis parti de là, j'avais à peu près une trentaine d'années. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, Pascal?
C'est l'année passée?
Oui, c'est ça.
Okay.
Oui. Okay. Je l'ai vu très laide, Saint-Roch. Je l'ai vu très belle.
Oui.
Puis là, ben, elle a tendance à revenir comme
on l'a perdu.
Les mauvaises années où il y avait le maire Saint-Roch avec le fameux toit.
Oui.
On fait quoi avec ce secteur?
J'ai travaillé là, moi, dans les années 80.
Oui.
Et c'était vraiment, c'était vide, là.
Faisait quoi au maire
Saint-Roch? C'était la place communauté métropolitaine de Québec. On travaillait sur le projet, c'est nos bureaux pour le projet d'assainissement des eaux, la communauté urbaine de Québec. Et j'étais là, je me rappelle, là, il n'y avait pas grand-chose ouvert. Il y avait La Liberté, le magasin La Liberté dans le coin.
Les magasins de fourrure.
Le magasin de fourrure. Puis c'était terrible. Puis grâce à le maire Lallier, après ça, Régis, il a continué. Puis le gouvernement, on a mis beaucoup d'argent dans Saint-Roch pour le faire comme il est devenu avant que Marchand arrive.
Ouais.
Et malheureusement, il a manqué son bout. Complètement. Et j'ai rencontré des commerçants, j'ai rencontré des citoyens à Saint-Roch. Sont désespérés.
Les gens de la... je perds le nom là, pour ce qui est de
L'Aubrivière.
Les gens de L'Aubrivière, ils travaillent extrêmement fort.
Oui.
Encore en fin de semaine, je suis allé faire mon tour là, ils travaillent très fort.
C'est gentil.
Le YMCA qui est là aussi. Là, il y a énormément de gens qui transitent autour de ça. Il y en a qui dorment dans l'ancien embranchement de l'autoroute
Duplessis. pas Duplessis... Non, pas Duplessis.
Dufresne. Dans l'ancien embranchement d'autoroute Dufresne, il y en a aussi qui sont dans le Cap. Là. On fait quoi avec ces gens-là qui traînent un peu partout?
L'itinérance a augmenté. Puis vous avez parlé de promesses. Là. Marchand il a dit qu'il va mettre itinérance zéro. Là. Et c'est ça qu'il a promis. Et l'itinérance a augmenté. Les problèmes mentaux ont augmenté. Les gens qui ont des problèmes mentaux, ils ont augmenté, malheureusement. Puis je pense qu'il faut que tout le monde travaille ensemble, le gouvernement. Et il y a des bénévoles, il y a des groupes communautaires formidables dans ce coin-là. L'Aubrivière, moi, je suis un ancien président de L'Aubrivière. Et je connais très bien Eric qui travaille très fort avec son équipe. Il faut mettre plus d'efforts, il faut mettre plus d'argent.
Parce qu'ils travaillent déjà extrêmement fort, mais
exact.
La communauté d'affaires a énormément de difficultés. Je recevais hier dans Marceau Soir quelqu'un qui fait partie de cette communauté d'affaires-là, puis lui, il a vendu sa bâtisse. Là. Il est un peu tanné de tout ça. Tannés.
Puis j'y comprends.
Sur la devanture, il s'est fait casser ses fenêtres quelques fois. La devanture, des fois, est maganée. Il y a des graffitis là-dessus. Des fois, il y en a un qui décide de chier carrément dans son entrée. C'est épouvantable, M. Hamad. Puis de voir que les gens sont un peu hésitants à dire « Non, mais c'est pas l'itinérance qui est une problématique, c'est la maladie mentale, c'est toxicomanie, l'alcoolisme. »
C'est tout en même temps.
On les place où, ces gens-là?
Bien, en fait, il faut les accompagner. Il faut mettre plus d'efforts.
Comment?
Premièrement, les groupes communautaires font un travail exceptionnel. Il faut les aider pour aller plus loin. Ça, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de recette magique. Il faut continuer à aider ces gens-là, les groupes communautaires qui accompagnent ce monde-là, puis aller plus loin. Il faut aider les commerçants. Il faut que la ville ait des programmes davantage. Pas un programme qu'à chaque fois qu'on l'augmente, parce que quelqu'un qui a crié, mais là, il faut changer. Il faut aider ce monde-là à passer cette crise-là, parce que ce n'est pas évident.
Qu'est-ce qu'on dit à nos policiers avec ces gens-là? 80 % des interventions au centre-ville de Québec, ça touche la maladie mentale, M. Hamad. C'est pas leur job, eux autres. Ils n'ont pas étudié en psychologie, ils n'ont pas étudié la psychiatrie.
Puis imaginez, il y a des policiers qui amènent quelqu'un qui a un problème, ils l'amènent à l'hôpital, puis attendent. Ils attendent que ça finisse. Et c'est pas leur job. C'est pas leur job. C'est là qu'il faut augmenter les intervenants. Ça va aider, dégager les policiers de ce mandat-là, qui c'est pas leur mandat, puis leur dégager pour leur permettre de faire leur travail.
Après ça, je vous laisse partir. Le troisième lien. On veut le fameux tronçon sur Pierre-Bertrand, qui est un des pires tronçons de l'histoire de l'humanité, bien honnêtement, pour les gens qui travaillent dans ce secteur-là. Quand on a vu le tracé de Geneviève Guilbeault, on dit, mais bon Dieu, qui a travaillé sur ce tracé-là? Probablement des gens de Montréal. J'ai bien de la misère avec Montréal. Mais quiconque travaille dans ce secteur-là sait que c'est un des pires tracés. Pourquoi il y a des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus et qui ont dit ça, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. On met ça directement sur Pierre-Bertrand. On est des winners. J'aimais beaucoup l'idée de rejoindre l'extase à la broussaille, là, mais c'est juste moi, ça. Mais pour le reste, je trouve ça épouvantable, ce tronçon.
Mais honnêtement, moi, je suis pour le troisième lien. On a besoin pour question de sécurité économique.
On le met où?
Bien, c'est là, ce choix-là. Où il arrive, là, je ne comprends pas comment ça se fait. C'est là l'exemple que je donnais depuis quelques semaines. C'est qu'il faut que la ville soit impliquée dans les choix. Pourquoi? Parce que si on fait des travaux chez vous, dans votre entrée, vous allez sortir de dire, attendez un peu, vous êtes chez nous, j'ai un mot à dire pour qu'est-ce que vous allez faire. Le troisième lien, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. Il faut qu'on travaille avec le gouvernement, ce qui n'arrive pas actuellement. La ville apprend ça par les nouvelles, où ça en vient, comment ça se fait. Si on est autour de la table, tout le monde, puis on s'assoit ensemble, on n'aura jamais des nouvelles demain.
On le met où?
Bien, on le met à une place où il va être s'intégrer avec la ville. Là. Il y a l'ouest puis l'est, évidemment, les possibilités des deux. Il faut regarder. Puis il faut regarder comment on intègre l'entrée de troisième lien dans la ville de Québec. Il ne faut pas qu'il devienne une contrainte additionnelle qu'on ajoute. Et donc là, il faut regarder les infrastructures. Là. Alors,
mais il faut vraiment, selon vous, que ce soit de ville en ville, donc ville de Lévis, ville de Québec, on pourrait pas aller chercher le secteur là, de la fin de la capitale qui meurt dans le fleuve Saint-Laurent puis joindre ça l'autre côté?
Bien, on peut le faire. Il faut regarder encore une fois, vous amener un débit dans la capitale. Donc, si on amène ce débit-là dans le capital, il faut travailler la capitale aussi, parce que le capital est déjà débordé, là. Vous le voyez, là, il y a un problème.
On est dans un chantier de construction, on n'en peut finir non plus.
Oui, chantier de construction, même il y a une congestion importante dans la capitale. Donc, il faut tout ça regarder l'impact, comment on peut minimiser l'impact. On élargit des voies, on fait des entrées. C'est pas juste faire le pont. C'est comment le pont va s'intégrer dans notre infrastructure.
Vous allez me trouver à Chaland, mais c'est rare que j'ai la chance de vous parler. La continuité,
vous êtes pas à Chaland,
la continuité de la capitale qui meurt sur Henri IV, il y avait un terrain qui était réservé à l'autre bord.
Oui, il est encore. Vous parlez de la capitale qui s'en va vers la 40 sur Charest pour éviter...
Pour aller chercher Faux-Sambeau, exemple.
Non, il s'en va sur la 40 après vers Montréal. C'était ça qui était prévu dans les années 60.
Quand j'y vais à vol d'oiseau là, avec Google Maps, là, le terrain il est encore là, il est encore disponible. C'est-tu quelque chose que vous pourriez proposer?
Appartient, ce terrain-là, il appartient au gouvernement. Ces tracés-là étaient faits, puis on n'a pas prolongé la capitale dans ce temps-là, mais c'est toujours le tracé qui était prévu pour que la capitale s'allonge jusqu'à la 40 l'autre côté, pas loin de l'aéroport d'ailleurs, pour éviter de faire le détour puis passer par Henri IV ou Robert Bourassa puis reprendre Charest en bas. Ça, c'est, ça appartient au gouvernement du Québec.
Ça m'a raison. Ça a été un plaisir.
Ça fait plaisir.
J'espère que ce qu'on a jasé aujourd'hui, ça va être vrai lorsque vous serez élu, si vous êtes élu.
Et
faut pas avoir des promesses pour rien jamais.
Puis vous me direz enfin, gardez l'enregistrement, ça va être bon.
Gardez-le,
on va s'en
vous.
Parler. Moi, je l'ai dans ma tête.
Moi aussi.
Puis je me mêlerai pas, sais-tu pourquoi? Parce que je vais faire ce que j'ai dit.
OK. J'aime ça. 13h08, on fait une courte pause. On était avec Sam Hamad, candidat à la mairie de Québec, chef de Leadership Québec, équipe Sam Hamad. 13h14 minutes, vous avez les choses à nous dire. 418-971-1021, 418-971-1021. On a passé une bonne demi-heure en compagnie de Sam Hamad pour parler des dossiers qui touchent Québec. On a parlé, bien sûr, du SRB, on a parlé du tramway, on a parlé du RTC qui a de la difficulté à gérer son argent. On a parlé du troisième lien, donc l'entrevue sera disponible. Ce n'est pas déjà fait sur le site...
C'est déjà rendu.
BLVD.fm ou encore sur l'application. Merci beaucoup de l'avoir fait. Tu travailles tellement vite. Merci d'être là. Je serais pas capable d'en faire autant si tu n'étais pas là.
Je ne le mets pas sur moi, mais ouais. Je suis d'accord avec ton affirmation, peu importe c'est qui derrière.
Martin Bourget, qui est aujourd'hui le président, directeur général et concierge chez Groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut, mon chum.
Salut, comment ça va, vous autres?
Moi, ça va, mais toi, t'es avec 40 filles dans le bois. Vous êtes juste deux gars. Les gars, ça doit être hallucinant à quel point vous devez travailler fort.
J'ai pensé demander l'aide médicale à mourir.
Vous êtes en train de chasser toute la gang. C'est donc ben, le fun, ça.
Oui, oui, vraiment. Tu sais, je veux dire, je pense que de toutes les chasses que je peux faire... Je vais dire comme ça, la quantité de chasse que j'ai pu faire dans ma vie, on en arrive à un point où est-ce que c'est beaucoup plus, je cherche le mot en français, là, mais rewarding, de faire de la chasse en initiation comme ça, puis d'accompagner quelqu'un dans toute l'émotion qu'il va vivre, puis tout ce qui va se passer avant, pendant, après le tir, de sa première récolte animalière. Surtout que là, c'est des filles qui, si on recule il y a 10-15 ans, avaient de la misère à avoir de la place en chasse. Qui, là, ils ont non seulement leur place, mais qui s'affirment. Et qui s'affirment aussi dans, on va le dire de même, leur compréhension de pourquoi on récolte un gibier. Puis là, ils sont à leur première récolte de gibier avec la première fois qu'ils vont fronter le fait que, moi, là, quand je vais appuyer sur la détente, là, je vais prendre la décision de terminer la vie d'un animal dans un cadre de contrôle animalier, puis je vais le consommer. C'est quand même quelque chose, puis ça donne lieu à beaucoup d'émotions.
Vraiment, vraiment. Puis donc, tu trouves ça plus gratifiant, toi, faire vivre les premières expériences aux gars puis aux filles qui débutent la chasse? Tu trouves ça gratifiant?
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, bien, c'est parce que, écoute, moi, je suis quelqu'un de feeling beaucoup, puis je suis quelqu'un qui est excessivement physique. Fait que d'avoir... Je veux pas dire que moi, j'ai plus d'émotions quand je chasse. Faut faire attention. J'ai encore beaucoup d'émotions, puis la mise à mort d'un animal vient encore beaucoup me chercher. Mais de rentrer en contact avec l'émotion qui entoure une première récolte comme ça, les rires, les pleurs, l'anxiété, là, tout ça, c'est la vie, là. Carrément, c'est trippant au bout.
Vous avez eu 5 courses dans les dernières heures. Je trouve ça très intéressant parce que moi, j'ai été me promener. J'ai fait 40 km dans le bois en fin de semaine passée dans la réserve faunique de la Jacques-Cartier. J'ai rien vu. J'ai pas vu de grosses faunes. J'ai pas vu d'orignal. J'ai pas vu de chevreuil. Même pas vu un porc-épic ou un castor. J'ai vu 3 écureuils. Puis je pense que j'ai vu un moineau de mes yeux vus. Ils sont où, les animaux, dans le bois? Pourquoi vous autres, vous êtes capables de les trouver?
Bien, ça dépend énormément des conditions atmosphériques, hein, des conditions climatiques. Surtout quand tu as des bonnes lunes puis qu'il fait clair la nuit, les animaux vont marcher de nuit, surtout la grande faune. Tout ce qui pourrait être un repas dans la nature, là, tout ce qui peut être un snack pour un autre animal va marcher de nuit parce qu'il va être plus sécuritaire comme ça. Après ça, bien là, avec les jeux de pluie, pas de pluie, pluie, pas de pluie, les baisses de pression barométrique changent, puis les hausses de pression barométrique changent énormément l'activité. Si je donne une idée, lundi, on a passé notre première soirée, j'étais avec Beverly, qui est une des filles qui était à sa première chasse au Québec. Elle a chassé en Afrique avec nous autres beaucoup, mais au Québec, c'est la première fois qu'elle était à la chasse au grand gibier. On est dans la cache, puis on entend des ours grogner tout le tour de nous autres, là, sans arrêt. Parce que les autres, là, présentement, c'est la saison des amours, ça veut faire des bébés, là, c'est 50 Shades of Poil dans le bois, là. Et ça se court après.
Ça grogne, ça grogne. Ça grogne comment, des ours à la recherche de la femelle?
Un genre de... T'entends tout le tour, là. Toute la soirée.
Bon, je reconnais à la Grande Allée.
Je reconnais que j'ai réalisé ça sur la Grande Allée les vendredis et les samedis dans le bon temps.
Ah, ça a l'air qu'il y a des gens à l'apogée qui font ce genre de bruit-là là, à la fin de l'acte. Hein. Eux autres, ouais. c'est la prémisse.
Tu les entends,
ils parlent comme ça.
Tu les entends si fort que ça? Ah, ouais.
Tu les entends très clairement. T'es assis dans la cage, puis nous autres, on est dans le silence. À part les écureuils qui se battent pour le bout de noix dans le baril, là, t'entends rien. Puis tu les entends d'un clairière à l'endroit, tu les entends dans le bois. Là. La minute que le vent tombe le soir, la minute que le vent drop le soir, là, dans ce qu'on appelle nous autres le « golden hour », la chasse termine présentement à 9h20 parce que le soleil se couche à 8h50, puis c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Cette dernière heure-là, quand le vent tombe, la température commence à tomber, la luminosité tombe. On appelle ça le golden hour pour la lumière que ça donne pour les images, mais aussi pour l'activité animalière. Ben, c'est souvent là que la grande faune se réveille, surtout quand elle est en période de reproduction. C'est la même chose pour l'orignal en saison, parce que à cette heure-là de la journée, la température commence à tomber bonne pour eux autres. Vers les 14 degrés Celsius, ça recommence à se déplacer. Les ours, c'est la même chose. Là, ça commence à beugler tout le tour de toi. Là, je dis, hey, les ours nous gagnent après. Non.
On est-tu en train de le parler?
Oh!
Ça grognait tout le tour de nous autres. Mardi soir, pas un grognement. Pas un grognement. On était sur un onde de pluie, il y avait une chute de pression barométrique, ça change énormément leur comportement. Fait que, tu sais, la fin de semaine que tu n'as rien vu en te promenant, bien, ça pourrait être explicable. On aurait juste à regarder ce qu'on appelle la table solunaire pour voir où est-ce qu'en était rendue la Lune dans sa phase. Regardons un peu les chutes de pression barométrique, puis on pourrait très bien expliquer. Ainsi qu'aujourd'hui, même les fabricants de caméras de chasse, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, tu vas mettre ta caméra de chasse sur un spot, puis tu vas, par exemple, demander à la caméra de d'être spécifique sur tel ou tel boc, de se concentrer sur tel ou tel boc qui se présente sur ton site. Puis là, il va faire une espèce d'algorithme. Il va voir un petit peu le boc qui se présente quand, dans quelles conditions, de où est-ce qu'il arrive. Puis là, écoute bien ce que je te dis. Là, tu arrives dans le temps de la chasse, puis toi, tu as le choix, là, tu peux prendre la semaine 1 ou la semaine 2 en vacances. Tu vas demander au logiciel, dans les deux semaines, laquelle des deux semaines qui a le plus de probabilité que ton boc se pointe. Il va, par l'algorithme, calculer avec les prévisions météorologiques, la table solunaire, les chutes puis les hausses barométriques, puis il va dire, prends cette semaine-là, il a l'habitude de se pointer entre telle heure et telle heure dans tel genre de conditions.
Martin? Est-ce qu'on l'a perdu pour de bon? Oh, est-ce qu'il y a un ours qui l'a mangé? T'es-tu encore là, Martin? Ça, c'est le danger. Hein,
c'est son faire. Starlink. Mais,
je suis encore là.
OK, bon, on vient
de
te
faire un saut.
T'es-tu encore là?
Ben, il pleut. Hein, fait que Starlink a de la misère un peu.
Hey, tu l'as tellement, mais tellement vendu, Martin, que je pense que t'es aussi la personne qui va le ruiner.
Ouais, à cause de toi, là, oui. Je ne prendrais plus des actions de Starlink. Là.
On n'y croit plus.
Non, on y croit plus.
Oh, mais écoute, juste du vrai, là, c'était bon, c'est plus bon. Je veux dire, il faut te payer une fortune, c'est tout.
Tout simplement. OK.
S'arrête là, il y a tellement de monde là-dessus que même si tu payes pour le gros Sky Priority, ça coupe à tour de bras. Puis là, tu regardes dans le ciel, c'est clair. Ah oui, mais là, il y a de l'activité magnétique. Bah oui, mais fait que finalement, on va retomber au bon vieux téléphone satellite. Là.
Ben oui, effectivement. Hey, il y avait un expert chasse-pêche qui m'avait dit dans le temps, même si tu te promènes dans le bois puis tu vois pas de grosse faune, inquiète-toi pas, eux autres te voient. Puis ça se peut que tu passes à 2 mètres 2 puis tu t'en rendras jamais compte, mais eux autres, ça fait un bout qui te surveille. Puis à partir du moment où toi, tu les as pas vus, ils le savent puis ils restent là puis ils bougent pas. On l'a perdu pour de bon.
Je pense que c'est vrai.
Hey, je suis désolé, ça a reparti.
OK, est-ce que tu m'as entendu?
Oui, je suis entendu. Regarde tes sens à toi. Là. Mettons, tu es dans un environnement, tu vas sentir, tu sens la bouffe, tu sens aussi plus haut d'un orignal ou d'un chevreuil. Regarde un ours comment c'est fait. Combien de capteurs olfactifs qu'il y a sur la longueur de ce museau-là? Il y a des oreilles 360, les yeux, ils voient tout le tour, ils sentent énormément, ils ont des sens hyper développés. La grande faune, là, à 1 km, ils savent que tu t'en viens, puis ils veulent pas être dans ton chemin, ils veulent pas te rencontrer, parce qu'ils ont le potentiel de finir comme souper, eux autres. C'est des proies. Ils vont se sauver, ils vont se tasser. Si moindrement tu sens quelque chose, pas pour rien qu'on se désautorise à la chasse. On veut pas qu'ils nous sentent de loin pour qu'ils approche, parce qu'effectivement, ils vont détecter très rapidement, puis tu les verras pas.
OK. Puis vous autres, pour avoir des ours, je veux dire, est-ce que vous avez préparé vos terrains pour avoir ces 5 ours-là en quelques heures? Oui.
Oui, oui, définitivement. Dans un premier temps, on est à pourvoirie du lac du Moulin. C'est souvent là qu'on est à l'ours. C'est excessivement giboyeux ici. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils nourrissent les ours au même endroit, dans un baril qui est attaché avec une chaîne après l'arbre, parce que sinon, les ours se sauvent avec le baril. C'est aussi simple que ça. Il y en a un assez gros sur la bête ou le site à pâté de Christina qui a carrément cassé la chaîne, puis il est parti avec le baril. C'est aussi simple que ça. Fait qu'ils nourrissent pendant des semaines avec la même bouffe. Les ours, quand ils sortent de leur hibernation, puis ils se dégagent de leur bouchon muqueux, parce qu'ils ont vraiment un bouchon qui leur bouche la sortie, le derrière, là. Ils se débarrassent de leur bouchon muqueux, ils recommencent à s'alimenter, ils tombent dans les barils très rapidement, parce que c'est des bonnes sources de protéines. On met de la bouffe qui est vraiment très, très, très forte en protéines. Ils vont s'habituer. Là, avec les caméras, on va étudier un peu le comportement de nos ours. À quelle heure ils rentrent? Lesquels rentrent? Puis là, on va étudier un peu, OK, garde, tu vois, sur cette bête-là, celui-là, il est récoltable. Fait qu'on va le reconnaître, par exemple, par son V blanc, parce qu'il manque du poil sur le côté, il y a une blessure, quelque chose. Puis on va vraiment cibler les ours qu'on va récolter. Fait que les filles sont pointées, non, à partir de lundi soir, sur les différents sites à pâté, ici, à pourvoirie du lac du Moulin, puis ils ont récolté quand même 4 jours, 5 ours, non? Ça puis, fait longtemps que j'ai pas vu ça.
Et ils font quoi puis avec, Martin? Alex,
Il les mange, c'est de la très bonne viande, très, très, très bonne viande.
Puis le poil, la peau, il l'utilise-tu aussi? Y'a-tu du monde qui achète ça? Y'a-tu un commerce pour ça?
Il y a un commerce pour ça, mais je te dirais que la majorité garde leur peau. Ils vont faire skinner l'animal pour garder la peau, faire un tapis, une descente de lit, ils vont faire de l'artisanat avec. Ils vont garder les griffes aussi pour faire de l'artisanat. Ils se font des colliers avec ça. Ils vont les garder en souvenir. Ils vont soit, après ça, soit faire monter la tête de l'ours ou le shoulder mount qu'on appelle pour faire un trophée avec de la récolte, qui est la mémoire de la récolte de cet ours-là, ou encore garder strictement que le crâne, qui est aussi un très beau trophée. Et dans le cas du mâle, l'ours a quelque chose de particulier. Et là, je m'excuse les enfants, mais l'ours a un os dans le pénis.
Okay.
Il s'appelle le baculum. Et c'est en fait le trophée de l'ours. Le baculum, qui est l'os qui est dans le pénis, on le conserve. On le fait sécher.
Je file pas.
On le désinfecte.
Je file pas, Martin.
Attends, tu vas filer encore moins. On le fait sécher, on le désinfecte. Puis quand tu as chassé plusieurs ours en carrière, ce que tu fais, c'est qu'à la maison, à côté du pot à café, tu mets tous tes baculums dans une petite tasse, là. Fait que là, les gens, quand ils font du café, ils brassent leur café avec le petit bout qui est là. C'est bien beau. Là, tu leur dis après avec quoi ils viennent de brasser leur café.
Non, 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 je te poursuis.
C'est quoi, t'as-tu nommé ce petit baculum-là le Kevin Parent de la chasse, mettons?
Ouais, t'as grainé ton café.
j'ai gagné ton café.
Mais comment on explique que ça devient de plus en plus populaire, en fait, la chasse à l'ours? Là, il y a même des compagnies qui font de l'observation de l'ours, puis c'est touristique. T'en as beaucoup dans le bas du fleuve. Et puis il y a des pancartes maintenant. J'ai pas souvenir que je voyais ça beaucoup dans les dernières années, là.
Ben, c'est qu'il est rendu hyper abondant. Il est rendu hyper abondant parce que pendant un bon bout de temps, l'ours a été boudé parce que les gens ont associé l'ours à un charognard. Alors, les ours, les gens ne le consommaient pas. Les gens le chassaient pour contrôler la prédation parce que l'ours, c'est un grand prédateur de chevreuils et d'orignaux. Ça mange des bébés chevreuils et des bébés orignaux. Puis, si vous voulez voir des images, vous allez commencer à comprendre pourquoi on chasse l'ours. Quand vous allez voir un ours finir de sortir le bébé qui est en train de se faire accoucher par la femelle orignale pour manger le bébé puis détruire le derrière de la femelle orignale qui va aussi aller mourir. On faisait de la déprédation à l'origine. On ne le chassait pas pour la bouffe. Maintenant qu'on a démocratisé l'ours, on a expliqué que l'ours, c'est un animal omnivore, mais excessivement sélectif au niveau de sa nourriture. Dans le temps, il prenait avantage des dons passés à l'ouvert. Maintenant, il n'y en a plus de ça. L'ours est très, très, très sélectif dans sa nourriture. Si on met de la vieille viande sur un site à pâté, ça va l'attirer par l'odeur, mais il ne mangera pas la vieille viande. Il va manger l'orge que tu as mis là, il va manger les bleuets que tu as mis là, il va manger les barres protéinées que tu as mis là. Il va être très sélectif. Il va être dans les bleuets, dans les framboises, dans les mûres à longueur d'année. Alors, c'est une très bonne viande qu'on a fini par refaire découvrir aux gens pour accentuer la chasse de contrôle parce que la population d'ours est très, très loin d'être en difficulté. L'ours est très, très abondant. Puis dans certains secteurs, ben c'est un des facteurs qui est problématique pour les cheptels de chevreuil et d'orignal. Fait qu'en démocratisant la viande, en l'élevant...
On l'a-tu perdu? Martin, une fois.
Accentuer la pêche pour diminuer la présence de poissons-lions qui est en train de détruire les barrières de corail. Ben, en Australie, il y a une chef qui a vraiment élevé, qui a gagné des compétitions de genre les chefs là, avec en faisant du poisson-lion. Mais c'est rendu que les gens chassent l'ours pour faire du smoked meat, pour faire vivre des bear burgers, pour consommer la viande d'ours, qui est une excellente viande.
Ouais. Hey Martin, avant de te laisser quitter, cher ami, je veux que tu me parles. Ben, j'imagine que tu es dans le bois, mais tu suis pas quand même qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. La petite Clara Bell qui a été retrouvée hier, plusieurs heures dans le bois, plusieurs nuits dans le bois, au froid, à l'humidité, avec des plans d'eau tout autour d'elle, dont une grosse rivière à la hauteur de St. Albert, là, en Ontario. Toi, là, t'es un spécialiste là, de la recherche en forêt. Là. De retrouver une petite fille de 3 ans après toutes ces heures-là où on la cherchait. Tu considères tout ça comme un miracle? Genre, les pourcentages qu'on la retrouve vivante étaient pratiquement nuls.
Oui, mais je pense pas. Je pense qu'on sous-estime beaucoup, surtout le métabolisme d'un enfant qui est capable de se protéger. C'est prendre juste, lit un peu sur le réflexe de la baleine que l'enfant peut avoir dans la noyade. On est capable de récupérer puis de réanimer un enfant après beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutes en noyade. Les enfants ont des capacités qui sont quand même assez incroyables. C'est invraisemblable moralement, mais logiquement, c'était parfaitement plausible de la retrouver vivante. Elle est capable de passer au travers. Elle a les ressources pour le faire. Est-ce que ça veut dire que ça ne l'a pas traumatisé et que c'est pas grave? Pantoute, cet enfant-là vient de vivre le calvaire, c'est incroyable. Mais moi, avoir été sur cette recherche-là, j'aurais été le premier à persévérer en avant en animant les troupes en disant non, vous avez trouvé une petite fille en vie, là. Mais go, on s'active, lâche le café puis on cherche. Là. Mais c'est pas mal sûr. C'est pas, dans ma tête à moi, là, c'est pas mal sûr.
Parce qu'on fouillait les berges avec des perches, il y avait les gars de la Sûreté du Québec qui surveillaient les plans d'eau au niveau de la plongée. On était persuadés qu'on recherchait un cadavre, puis de retrouver cette jeune fille-là en vie, alors que nous autres, on ne connaît pas ça. Moi, je considérais ça comme, il y avait un faible pourcentage qu'on la retrouve en vie. On avait demandé à une ville en particulier de ne pas ramasser son recyclage, puis pas ramasser les vidanges, parce qu'on voulait être sûr que la personne ne s'était pas débarrassée de son corps.
Ben, c'est ça.
C'était weird, là.
Ben, c'est ça, mais c'était... Le sens dans lequel c'était dangereux pour sa vie, c'était beaucoup plus par rapport à l'implication de l'être humain. C'est-à-dire, on avait peur que quelqu'un ait fait de quoi de mal avec la petite. Mais la petite, proprement dit, dans nature, en dehors de l'influence de l'être humain qui kidnappe, qui ci, qui ça, qui est méchant, qui est en dehors de ça, la petite dans le bois, moi, ça, j'ai aucun doute qu'elle aurait survécu, là. C'est un court laps de temps pour le corps d'un enfant qui est capable de passer au travers de ça, à moins qu'elle rentre en hypothermie, puis on n'a pas eu des si grands froids que ça non plus. Là. Mais évidemment, là, ce qu'on craignait, c'était l'œuvre de l'être humain.
Oui, exact. Mais quand même, histoire incroyable. Pascal, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la Chine?
Mais il y avait un petit quelque chose par rapport à l'ours que je voulais ajouter, parce qu'il y a quelques années, là, autour de 2017-2018, il y avait genre du braconnage d'ours pour la viscule biliaire qui était vendu, mettons, à plus de 10 000 piastres. Fait que là, partout au Québec, tu avais du monde qui en tuait puis qui faisait exportation de la viscule de l'ours pour la médecine traditionnelle chinoise. Là, c'était bien, bien populaire.
Oui.
On est-tu encore là-dedans?
Non, en fait, c'est rendu complètement illégal. Et c'est exactement ce qui explique à un moment donné, l'ours était excessivement chassé pour la vésicule biliaire. Quand on a rendu la vésicule biliaire, l'extraction de la vésicule biliaire illégale, c'est un acte de braconnage très, très grave. Mais là, tu as vu les populations d'ours réaugmenter à côté parce que les gens ne chassaient pas pour la viande, ils chassaient pour ça.
Hey, c'est fascinant ça, parce que je me rappelle, c'est comme aphrodisiaque là, dans la médecine traditionnelle chinoise. Là.
Oui, c'était très cher.
Puis il y avait bien du monde, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou quelque chose là, du type là, plus en région, mettons, où on chassait l'ours, puis il y avait eu des interventions policières. Il y avait eu, genre, mettons, 100 personnes interpellées en quelques semaines seulement. Et je pensais que...
Il y a des...
Vas-y.
Moi, je me souviens de trappeurs là, qui pouvaient trapper jusqu'à 20-30 ours par saison. Là. Individu. On parle d'un individu, pas un groupe, là, pour la vésicule biliaire. Et volontairement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des pièges à pattes avec des grandes chaînes pour que l'ours se débatte, essaye de se sauver. Puis quand l'ours venait en maudit, je sais pas si c'est une croyance populaire, je suis pas biologiste, là, mais il semblerait que quand l'ours est venu en
on lâche pas.
On lâche pas. Grosso
au poids, ben, c'est encore plus rentable.
Okay.
Fait que volontairement, on trappait l'ours avec des pièges à pattes au bout de grandes chaînes pour qu'il se débatte à l'os, pour que la vésicule biliaire, elle gonfle. L'ours était enragé quand il mourait. La vésicule biliaire était grosse, ça valait cher.
Non, mais c'est pas drôle. C'est super grave. Mais ils l'ont mérité de plus avoir de libido du côté de la Chine avec tout ça.
Oui, mais ça disait qu'on pouvait avoir des plus grosses érections avec ça, c'est ça? Ça l'empêchait les hommes de ne pas... Ah oh, oui. Ben, ça doit être pour ça que les gars, ils dépensaient de l'argent
de même. Carrément, carrément. C'est un peu comme l'Afrique importait énormément d'un poivre qu'on appelle l'Afromomum digitatum, qu'on voit presque plus ici parce qu'il est en train d'éradiquer complètement la plante à l'état sauvage. Maintenant, c'est des cultures contrôlées. Ils appellent aussi les graines du paradis, là, l'Afromomum digitatum. Là, avant d'aller chercher du Viagra, si vous trouvez de l'Afromomum digitatum sur le marché, là, remplacez votre poivre à la maison par de l'Afromomum digitatum. Là, vous allez retomber à 16 ans. Ça se lève tout le temps, puis ça avertit pas cette histoire-là.
Ben on dort.
C'est vrai!
Il y a du monde aussi qui avait pendant un bout...
Ça s'écrit comment, hein? Je demande ça pour un ami.
Ben oui, ouais, je vais t'envoyer ça pour ton ami par écrit. Afromomum digitatum, graines du paradis, Seeds of Paradise. Trouvez ça sur le web, remplacez votre poivre par ça. Si vous n'avez pas d'activité depuis un petit bout, ça se peut que ça réveille l'écureuil.
Tout est parfait. Martin Bourget, tu es le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Pour suivre vos aventures à la télé ou sur les internets, on fait quoi?
Jeudi 21h sur les ondes de Télémag. Sinon, venez nous chercher sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. On est super facile à trouver. Évidemment, la plateforme aventurechassepêche.ca.com ou le acpnation.com, notre site web qui regorge d'informations. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Très, très important. On met beaucoup de stock là-dessus.
Merci, oui. Martin.
Yes! Salut! Bonne fin de journée!
Salut! Bye-bye!
Yannick, il y a quelque chose qui est sorti dans les dernières minutes par rapport à la Sûreté du Québec. On demande de retirer justement toutes les photos et le nom de la fillette de 3 ans sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour protéger son identité pour la suite des choses, pour la suite de sa vie aussi. C'est une vidéo qui a été publiée dans les dernières heures par la SQ qui demande de supprimer ces publications-là pour tous les noms, toutes les photos et tout ça. L'objectif, c'est de permettre à l'enfant de retrouver l'anonymat le plus possible puis de se reconstruire dans un environnement plus paisible.
Très bonne chose! Le 23 juin à 18h et le 24 juin à 16h, on célèbre le leader des Colocs, notre Dédé Fortin National, qui nous a malheureusement quitté il y a de ça 25 ans. La musique unique des Colocs et leurs textes engagés ont marqué les générations des années 90. Plusieurs de leurs chansons, comme La rue principale ou encore Tassez-vous de là, sont devenues des hymnes québécois. Dédé, dans toute son authenticité, a incarné l'espoir et la désillusion du référendum de 1995. Sa mort tragique en 2000 a marqué au fer rouge le Québec. Donc, on rend hommage à son œuvre. Merci beaucoup à la belle gang de Multiconfort FP, soumission rapide, gratuite, installation impeccable, service garanti, de nous permettre de présenter ce genre de show-là. Donc, c'est à ne pas manquer à partir de 18h le 23 juin et le 24 juin à partir de 16h. On fait une courte pause et on vient.
Marceau le midi.
Denis Coderre est au bout du fil, on va aller le rejoindre. Monsieur Coderre, votre santé, comment ça va?
Ben, je suis content parce que